Bonjour et bienvenue sur The Prudence Show, le podcast pétillant et sans langue de bois qui t'amène à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Prudence, coach mindset, experte en human design, entrepreneur depuis plusieurs années et au programme, je te propose des épisodes hauts en couleur. Qu'ils soient en solo ou à plusieurs, tu découvriras des sujets explosifs autour de l'authenticité, du human design, de l'argent, du business et beaucoup d'autres pour enfin t'autoriser à te créer une vie sur mesure et sans compromis. C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Alors, hello à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie, mais ultra ravie de vous retrouver pour cette fantastique table ronde que j'avais hâte de vous enregistrer. Déjà parce que je suis avec mes merveilleuses amies, donc je suis trop contente de vous retrouver pour cette table ronde, mais également parce que j'avais très envie de vous parler de ce sujet, de la santé mentale au travail et de la santé mentale en général, notamment parce que je trouve que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle plus. Surtout que pour la majorité de ma communauté, justement, vous êtes des entrepreneurs. Donc, la santé mentale, c'est autant au travail quand on est entrepreneur, mais autant aussi quand on est salarié. Et j'avais quand même envie d'aborder ce sujet de façon assez large, avec des profils différents, pour faire de la prévention, pour que vous puissiez prendre soin de vous, prendre de votre santé et voilà, faire attention aux signaux, en tout cas, qui peuvent témoigner justement... qui peuvent témoigner d'un peut-être il est temps d'aller faire un petit check-up chez le médecin ou de prendre en tout cas du repos. Donc aujourd'hui j'accueille mes merveilleuses invitées. Bonjour à toutes les girls.
Hello.
Du coup on va refaire un petit tour pour nos auditeurs auditrices. Laura, je te laisse te présenter.
Oui, et ben déjà, ravie d'être là, comme d'habitude. Merci beaucoup, Prudence, pour l'invitation. Je trouve que c'est une belle idée de parler de santé mentale et connaissant de loin les parcours de chacune, je pense que ça va être très riche et très intéressant, donc j'ai hâte. Donc, je m'appelle Laura, j'ai 35 ans. J'ai été entrepreneur pendant de nombreuses années à mon compte dans différentes activités. La dernière étant la formation et le consulting en communication digitale. J'ai fermé ma dernière entreprise en décembre 2022 pour redevenir une salariée. Donc on en parlera, je pense, un peu plus dans la table ronde. Mais voilà, et globalement, je suis passionnée de communication, je suis passionnée de marketing, de branding. C'est vraiment des sujets que j'adore et voilà, et que je continue à développer, mais en tant que femme salariée. Donc voilà un petit peu pour la présentation.
Super, merci. Vous avez déjà eu l'occasion d'avoir Laura d'ailleurs pour la table ronde justement sur le marketing. Donc ça,
oui,
c'est vraiment
c'est
super.
Vrai. C'est vrai.
Marie, tu es une habituée du podcast, donc tu peux y aller.
Si tu veux. Donc, idem, pareil que Laura, déjà, merci beaucoup, Prudence, pour cette invitation. C'est effectivement pour moi un sujet qui est très important et je trouve qu'il faut vraiment en parler. C'est hyper, hyper important, notamment quand on est entrepreneur, aussi quand on est salarié, mais je ne peux pas parler de ce cas-là, je ne le connais pas. Et d'autres ici, personne ne sauront mieux le faire que moi. Je pense que c'est super important. Donc moi, c'est Marie, du coup, comme Prudence l'a dit. Je suis designer d'intérieur. Je n'ai pas été que designer d'intérieur. Il y a eu un moment de ma vie, évidemment pile poil, dans la dépression, mais que je n'ai pas reconnu tout de suite, où j'ai été business coach. La vie a fait que de fil en aiguille, en fait, j'ai accompagné simplement des entrepreneurs à développer leur activité, pendant que moi, je sombrais petit à petit dans une vie qui ne me convenait pas. Voilà, je pense que c'est une belle présentation pour le sujet dont on va parler. Ouais. Sinon, aujourd'hui, donc, je suis redevenue ce métier de cœur que je faisais avant, qui est designer d'intérieur. Et voilà, je pense que c'est déjà très bien. Je vais passer le relais, du coup, à Nadine.
Oui. Bonjour, bonjour à toutes. Moi, je suis ravie aussi de vous retrouver. Et puis, Prudence, je trouve génial que tu abordes ce sujet parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, la santé au travail est de plus en plus malmenée. Il y a même eu un rapport de l'OMS qui a été fait, j'ai appris ça cette semaine récemment, comme quoi on n'a jamais été autant malmené dans notre travail pour diverses raisons et que, voilà, effet Covid, enfin voilà, tout ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années. Et voilà, et moi j'ai eu fait un burn-out aussi, donc je sais ce que c'est, j'ai été salariée 30 ans. Donc, parler de ces sujets-là, c'est juste énorme. Aujourd'hui, je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Donc, aujourd'hui, je dis merci à mon burn-out pour ça. Mais la vie n'est pas finie. Je ne sais pas ce qu'elle me réserve. Donc, plus que jamais, c'est important de prendre soin de nous. Qu'on soit entrepreneur ou salarié ou femme tout court, c'est primordial.
Ouais, complètement. Ah, j'adore. Bon, merci vraiment d'être là, les filles, du coup, avec moi aujourd'hui pour pouvoir parler de cette thématique. J'ai fait un petit constat hier, c'est qu'on est toutes MG, et donc j'ai trouvé ça drôle en fait hier. On est toutes MG juste pour les auditrices. Laura, du coup, est 3-6, Marie est 3-5, Nadine est 4-6, et moi, du coup, je suis 3-5. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de ces sujets-là. Pour ma part, bon, bah, vous me connaissez bien sûr, c'est Prudence. Et donc, ben, suite à mon épuisement professionnel de l'année dernière, encore une fois, ça a été juste pour moi on va dire une petite sonnette d'alarme supplémentaire pour me dire que c'était extrêmement important d'aborder ces sujets pour encore une fois reconnaître les signes déclencheurs et donc savoir quoi faire dans ce genre de situation. Donc, est-ce que chacune, vous pouvez nous partager un petit peu quelle est votre expérience avec la santé mentale, justement.
Moi, j'aimerais bien rebondir tout de suite sur un truc que tu as dit.
Oui,
C'est que
vas-y.
tu as parlé en parlant de mon expérience, tu as parlé de reconnaître les signes déclencheurs. Je pense que c'est d'autant plus important, nous qui avons l'expérience, que ce soit de la dépression ou du burn-out, de l'épuisement professionnel, d'en parler. Parce que quand on l'a jamais vécu, c'est impossible, selon moi, de reconnaître les signes. C'est pas possible, en fait. Parce que, comme toute chose nouvelle que l'on vit, bah, on ne sait pas ce que c'est. On se laisse un peu porter, on est là, c'est un peu le béaba de la vie, quoi, en fait, et on sait pas trop à quoi ça ressemble. Et moi, en tout cas, mon expérience, et après, peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont nous entendre et qui vont se reconnaître dans certaines descriptions et qui vont se dire, ah oui, mais là, je me reconnais, ou je me reconnais pas, ou je sais pas vraiment, ou essayer de se convaincre que c'est pas vrai. Juste, en fait, la meilleure option que vous aurez jamais, c'est d'aller consulter un professionnel. Si le doute persiste, allez-y, quoi, en fait. Et je voulais partager ça parce que moi, de mon expérience de la dépression, aujourd'hui, en étant en post-dépression, et c'est long, c'est très long, en fait, on sait reconnaître après l'avoir vécu ce qui a fait qu'on est tombé dedans. Et c'est aussi très délicat parce qu'on a, bon, en tout cas moi, encore actuellement, et je ne dis pas que tout le monde est comme ça et que c'est tout le monde comme ça. Mais j'ai encore la sensation, parce que moi, ça fait que même pas un an que j'ai arrêté mon traitement pour la dépression, j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que du coup, je suis très attentive aux signes, et je pense que c'est vraiment important d'en parler, justement, parce qu'il y a des signes qui doivent être pris en considération, et il y a d'autres qui, en fait, font partie tout simplement de la vie, et c'est OK. Mais sans avoir vécu l'expérience, je pense que c'est difficile aussi, je ne sais pas les filles ce qu'elles en pensent, de reconnaître. En tout cas, moi, j'avais toujours entendu dire que, par exemple, sur le sujet de la dépression, c'est une maladie insidieuse dans laquelle on coule, en fait, petit à petit, que c'est pervers, en fait. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, avec, oui, là, mon ego spirituel qui était en mode, le niveau de conscience que j'ai, les gars, à mon avis, vous allez pas m'avoir. Hein. Bah, non, en fait, t'es pas plus que quelqu'un, que personne d'autre, en fait, t'es juste un humain. Et quand ton corps, il a décidé que, malgré tout ce que tu peux penser, bah, ça va pas. Bah, t'inquiète pas que tu le verras pas quand tu l'auras décidé de te dire stop, en fait. Tu le verras pas. Donc, voilà. En tout cas, ça, c'est mon expérience à moi. Pour ça, en tout cas.
Je te rejoins, Marie, dans ce que tu dis. Moi, mon expérience a été un peu différente. Je pense qu'on a des signes, c'est juste qu'on refuse de les écouter, en réalité. Parce que moi,
Bien
j'ai été
sûr.
salariée de 30 ans dans une grosse société dans laquelle, en fait, j'ai jamais été pleinement épanouie. Je le savais. Au fond de moi, je savais souvent combien de fois j'ai dit à la petite voix intérieure qui dit, ah, ça gratte, ça pique, je me sens pas bien, j'ai pas envie d'y aller. Ne serait-ce que déjà toutes ces petites choses-là. Alors, des fois, ça peut être sans incidence et puis il suffit d'un petit truc qui remotive et ça repart. Mais moi, j'avais jamais ce petit truc. Mais je me disais toujours, oh ouais, mais bon, je suis pas à plaindre. Il y a plus malheureux que moi. Moi, je me suis beaucoup dit ces choses-là. Et mes 2 dernières années où on m'a proposé un poste, en fait, dans cette société qui, a priori, me convenait. Mais qui, au niveau de l'environnement dans lequel ça se faisait, sans entrer dans les détails, parce que ce serait trop long, mais ça s'est pas fait du tout comme on m'avait promis que ça se passerait, en fait. Et dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans ce bureau et dans ce poste, Je suis rentrée le soir chez moi et j'ai dit à mon mari à l'époque, ça va pas le faire. Je savais que ça n'allait pas le faire. Mais je me suis obstinée. Parce que je me suis dit, ouais, mais c'est une belle opportunité. Puis c'est parce que c'est nouveau. Puis c'est peut-être parce que je me sens pas encore trop à la hauteur. Et puis. Mais au fond de moi, je savais que ça le ferait pas. Et je me suis obstinée pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années-là, bah, comme tu dis, Marie, ouais, on est en train de sombrer insidieusement, en se trouvant toujours plein d'excuses. On me dit, mais non, non, mais moi, j'ai toujours été une battante, je suis capable, ça passe pas par moi. Mais il y avait quand même ce petit truc à l'intérieur où je le sentais.
Ouais.
Quand j'étais
Bah.
toute seule dans ma tête, je me disais, ça va. Et je m'obstinais quand même.
Et je comprends et je rebondis aussi sur ce que tu dis, Nadine, parce que en fait, moi, ce qui a fait que je ne voulais pas le reconnaître, c'est en fait, comme je suis naturellement une personne optimiste, et en fait, ou combattante, comme tu disais, enfin voilà, qu'on a la niaque et tout. En fait, moi, il y avait des moments dans ma vie, il y avait des événements qui faisaient que j'avais un pic de mieux-être. Et là, je me disais, allez, c'est bon, ça y est, tu vois, ça y est, en fait, Marie, l'optimiste, il est là, allez, vas-y. Mais en fait, une fois que j'étais là-haut, je ne me sentais pas descendre tout doucement, en fait. Et en fait, à chaque fois, ça faisait ça. En fait, moi, j'aime bien illustrer que au quotidien, quand je regardais, moi, ma vie avec le recul maintenant que j'en ai, parce qu'avant, j'étais incapable de le faire, ça faisait des pics, donc au bas, et avec certains événements de la vie. Mais si, en fait, je dézoome le graphique, en fait, les hauts bas ne faisaient que descendre tout le temps. En fait, la pente, elle était descendante tout le temps, en fait, constamment. Et ça, je ne le voyais pas. Donc, j'essayais de me convaincre que parce que j'étais une personne optimiste, ça ne pouvait pas m'arriver.
Pareil.
Je vais rebondir sur ce que vous dites, les filles, c'est exactement pareil pour moi. Donc, ça, c'est vraiment peut-être un point commun qu'on peut avoir. En fait, je pense que. C'est drôle parce que donc moi c'est arrivé ça a commencé l'été 2022 et c'est vraiment en novembre-décembre 2022 que j'ai senti que plus rien n'allait aller et qu'il fallait enfin l'accepter en fait parce que c'est vraiment ça le plus gros du travail c'est que effectivement les signes on sent au plus profond de nous qu'il y a des choses qui vont pas mais on a des personnalités des caractères en tout cas c'est mon cas aussi qui font que on est focus solution. Ça va, on a de l'énergie, on est positif, on est optimiste. C'est ça aussi le travail. Alors là, on va parler des entrepreneurs, mais ça peut être aussi des personnes qui ont des responsabilités dans la vie de tous les jours, des parents, des personnes qui ont des responsabilités dans leur job salarié, peu importe. Et en fait, on se dit, bah, en fait, c'est ça la vie que j'ai choisie. Donc, c'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal de se sentir un peu moins bien, etc. Donc, on s'accroche. Et en fait, on en fait une norme. Et moi, il y a un truc aussi que j'ai réalisé hier dans une discussion, c'est que c'est comme si on avait une jauge d'énergie. Et en fait, on met toute son énergie à être focus solution, à être dans le positivisme, à se remonter le moral, à vraiment tout donner pour aller bien, parce qu'il faut aller bien, sauf que ça, en fait, c'est déjà ne pas être dans l'acceptation, que bah, déjà dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas en burn-out, c'est OK d'avoir des bas, mais qu'en plus, c'est bien de s'écouter et d'accepter quand il y a des failles et quand il y a des choses peut-être à venir réparer, à venir travailler. Et ça a été, enfin, moi, je sais que ça a été un chemin, au final, quand j'ai décidé de fermer mon entreprise là. Fin 2022, je me suis dit parce que c'est de la faute de l'entreprise que je suis en burn-out, bien évidemment. Vraiment sur le court terme, c'était ça ma réflexion. Aujourd'hui, je sais que c'est une erreur, que ça se passait déjà en interne et ce depuis plusieurs années. Mais c'est juste la conséquence du fait de ne pas avoir su aller regarder là où ça faisait mal au moment où ça se passait. Donc aujourd'hui, avec un travail, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais il y a des solutions. Ça, j'en prends conscience et ça va de mieux en mieux. Et comme disait Marie tout à l'heure, il y a aussi un post-burnout ou un post-dépression, et donc pas mal de conséquences et de nouvelles choses à découvrir, se redécouvrir soi-même aussi et tout. Et donc tout ça, c'est un travail sur le long terme. C'est pas juste, ok, j'ai fait un burnout, je me soigne. C'est vraiment un travail global, quoi.
Ouais, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Alors déjà, je valide ce que vous dites, autant que ce soit sur le tempérament, parce qu'on va tous avoir un tempérament différent. Moi, je suis assez comme vous, hein, je suis optimiste, combattante, hein, on le sait, ce côté, allez, on va trouver des solutions, ça va le faire. Et aussi, pour moi, ce qui est ressorti, c'était ce côté en mode, ah non, mais j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire en sorte que ça ne fonctionne pas. La seule solution que j'ai, c'est que ça fonctionne. Donc, Je ne peux pas m'arrêter, ce n'est pas le bon moment aussi. Moi, j'avais beaucoup ça, en fait, j'avais beaucoup ça à l'esprit. Non, mais ce n'est pas le bon moment. Là, je vais faire, je vais créer un revenu encore plus récurrent et après, je m'arrêterai et après, je pourrais prendre du repos et après, je pourrais prendre des vacances. Enfin, il y avait toujours chez moi, en tout cas, ce sentiment de ce sera après, en fait. Ce sera après, dès que j'aurai passé la prochaine étape, là, à ce moment-là, je pourrais m'arrêter. Sauf qu'en fait, il y avait jamais d'arrêt, c'est-à-dire qu'après la prochaine étape, il y avait encore une prochaine étape, et il y avait encore une prochaine étape, et il y avait encore une prochaine étape, et c'était un cercle comme ça qui continuait, et dans lequel finalement je me suis rendu compte que sur mes 4 dernières années d'entrepreneuriat, j'avais jamais réellement de pause où je déconnectais, où oui, de temps en temps, je partais en voyage, et c'était super, mais en même temps, c'était toujours très, très, très focus, ok, bon, bah là, je vais travailler, là, je vais travailler, là, je vais travailler, puis en fait, finalement, jamais de profonde et de réelle déconnexion où je pensais complètement à autre chose. Et puis ben après, comme vous l'avez très bien dit, ce côté, il y a un moment donné où en fait, c'est inévitable, enfin, que ça se manifeste autant par des symptômes physiques en fait, oui, ça se manifeste principalement sur des symptômes physiques que par d'autres façons aussi, des ressentis, etc. quoi.
Ouais. Ouais. J'aurais apporté une petite précision parce que je me rends compte qu'en fait, entre nous quatre, toutes les trois, vos burn-out sont liés à votre activité d'entrepreneur. Moi, elle était liée à mon activité quand j'étais salariée. Et du coup, les causes sont différentes. C'est vrai que pour être entrepreneur aujourd'hui, je suis pas dans ce challenge permanent de dire faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse. Je m'arrête en fait. J'ai appris ça. Mais par contre, là où il peut y avoir une subtilité, c'est que moi, quand j'étais salariée, alors ce que j'ai fait, c'est pas vraiment un burn-out, c'est ce qu'on appelle un bore-out.
Oui,
C'est-à-dire
un
que
bore-out.
quand j'ai pris ce poste, je devais encadrer une équipe, faire du management et tout, et je me suis retrouvée en fait du jour au lendemain derrière un ordinateur à faire du travail à la chaîne, pour le faire très résumé, avec aucune responsabilité particulière, ce qui était un non-sens pour moi parce que j'ai, voilà, besoin d'entreprendre, de prendre des décisions, de créer, etc. Et là, il y avait plus rien de tout ça. Travail à la chaîne. Oh, autant vous dire que voilà, c'était à l'opposé complet de ce que je suis. Ça devait être transitoire, et parce que ça devait être transitoire et parce qu'il y avait une promesse au bout d'avoir quelque chose de mieux, je me suis accrochée et en fait c'était devenu un non-sens. C'est-à-dire que je me disais, mais il y a de quoi je me plains? De quoi je me plains? Parce que je fais, en gros, je faisais 8h, midi, 14h, 17h. À 17h15, j'étais à la maison. Et je me disais, mais il y a plein de gens qui sont heureux avec ça. Il y en a qui bossent comme des tarés, ils n'y arrivent pas. Moi, je suis cool. Je fais ce qu'on me dit de faire. Je suis bien payée, en plus. Je suis au chaud dans un bureau. Mais de quoi je me plains? Moi, j'ai eu ce phénomène. C'est-à-dire, OK, ce n'était pas aligné avec ce que j'avais envie de faire. Mais parce qu'il y avait une pseudo-promesse, je me suis accrochée à cette promesse. Mais qui ne dépendait pas de moi, qui dépendait de l'extérieur, et en me disant oh, ça ira mieux, ça ira mieux, et il y a plus malheureux que moi. C'était tout le temps ça, moi, qui me tenait. Il y a plus malheureux que moi. Attends, cocotte, de quoi tu te plains? Tu fais pas beaucoup d'heures, t'es bien payé. Arrête, quoi. Vas-y, et tu vas y arriver. Mais non, on peut pas lutter, en fait, contre, enfin, en tout cas, dans ce que je vivais, moi, contre l'inverse de ce qu'on est. Et même si c'est transitoire, soit avec le recul, il aurait fallu que je travaille dessus à l'époque, hein, c'est clair. Mais soit on sait que c'est transitoire et on accepte, on se dit ben, c'est OK pour moi, mais moi je savais que c'était pas OK pour moi. Et je savais au fond de moi que ça allait durer longtemps. Et ça avait vécu un pétage de plomb et un an de dépression. Et par contre, du coup, maintenant que je suis entrepreneur, où on peut avoir une autre pression qui est celle de devoir tout le temps bosser pour réussir, la pression de gagner sa vie, et que si on ne bosse pas, eh ben, on ne va pas gagner de l'argent, et du coup, on ne va pas s'en sortir, et on a le sentiment d'échec. Il y a beaucoup ça dans l'entrepreneuriat. Je l'ai eu la première année, et très, très vite, mes signes de dépression, j'ai eu les alerteurs, comme disait Marie. On sait, on sent le corps, il est dit, oh, attention, là, vas-y, cocotte. Et aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est prends soin de toi, quoi. Dès que tu as un signe de fatigue, ta tête qui est en train de te dire il y a un truc qui cloche, arrête-toi tout de suite. Même si c'est pas longtemps, mais arrête-toi, pose-toi. Et maintenant, c'est ce que je fais tout le temps. Et pourtant, j'ai jamais été autant, j'ai envie de dire, en insécurité et en inconfort qu'actuellement.
C'est
Jamais.
intéressant ça. Parce qu'en fait, on pense souvent que les causes de ce qu'on vit en termes d'inconfort, ce sont des causes externes. Alors bien sûr, il y a des événements, il y a des déclics ton travail, par exemple, il y a un manque de sens à un moment donné, mais en fait, ça se passe réellement à l'intérieur. Et aujourd'hui, ta sécurité, elle est en toi, finalement.
Ouais, tout à
Ouais,
fait.
complètement. Et puis, il y a aussi ce
Trouver
que
cette
tu choisis
sécurité, ouais.
maintenant de... Ce que tu choisis aussi maintenant de valoriser cette notion de OK, je sais ce que ça fait de ne pas avoir la santé, donc maintenant en fait je vais en faire une
Oui,
priorité et c'est devenu
exactement.
quelque chose de très important ouais, pour moi. Donc je suis complètement d'accord. Et ça me permet de rebondir parce que là, Nadine, du coup, tu parlais à un moment donné aussi de ce manque de sens. Je trouve que ça fait complètement le lien avec pour vous, quels ont été les petits déclencheurs, les petites alertes qui étaient justement en train de vous faire comprendre que. Ah, là, il y a quelque chose qui peut-être n'allait pas. Quels ont été les signes avant-coureurs que vous avez choisi de voir ou peut-être que vous n'avez pas choisi de voir et que maintenant, avec le recul, vous êtes capable de le dire?
Moi, ça me permet aussi de revenir sur ce que Nadine a dit à un moment donné, que du coup, elle, c'était son travail salariat et nous, c'était plutôt tourné vers l'entrepreneuriat. Et moi, je dirais qu'en fait, que ce n'est pas mon job d'entrepreneur qui m'a fait tomber justement dans la dépression. C'est le fait de ne pas respecter mes besoins personnels. Parce que j'aurais respecté mes besoins personnels, j'aurais été à même de dire, comme je l'ai toujours fait avant, et maintenant que je suis plus en capacité de le faire de nouveau, de dire, en fait, ça ne me plaît pas. Pourquoi je me casse les pieds à faire ça, en fait? Et juste, en fait, de passer à autre chose. Mais ça aurait pris un quart de seconde. Et aujourd'hui, avec le recul, c'est justement ces petits déclencheurs-là, où maintenant je le reconnais, pour répondre à ta question, où ça a été de ne pas combler mes besoins personnels. Et d'attendre, du coup, avec le temps et en laissant de côté complètement tous mes besoins personnels, de me dire, ah ben en fait, c'est à mon entreprise de combler mes besoins personnels. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, ça s'est engren... ça a créé une sorte d'engrenage où, du coup, après, mon job ne me plaisait plus et du coup, je me disais, ah ben non, en fait, ça va pas. Enfin, voilà. Mais en fait, ça a vraiment été de ne pas combler mes besoins personnels, de ne pas être assez attentive à ça. Par exemple, moi, je suis une grande, grande créative et j'essayais de me convaincre que la créativité que j'apportais dans mon job était suffisante. Sauf que quand on a vécu 100% de sa vie à faire des trucs avec ses mains, à un moment donné, c'est sûr que quand tu l'écoutes pas, à un moment de fin, moi, clairement, ça a été ça, quoi. Et je le voyais pas. Et ça a été, je me rappellerai toujours de ce déclic que j'ai eu plusieurs mois après avoir commencé la médicamentation, où je me suis retrouvée avec l'envie de faire un truc de mes mains. Et en fait, ça a été, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, j'ai laissé mourir cette partie-là de moi à un moment donné. J'écoutais pas quand je passais chez Cultura, n'est-ce pas? Cultura, ce
On y
fameux
était tellement.
Cultura, où je passais dans les rayons et je me disais, oh, j'ai envie d'acheter des crayons. Oh, non, en fait, je veux pas acheter des crayons. J'ai envie d'acheter des feuilles. Oh, non, en fait, ça me fait chier, en fait. Non, j'ai autre chose à faire. Et en fait, ça a été ça. Mais juste, en fait, comme un enfant qui est dans un magasin qui dit, ah, oh, j'ai envie de ça. Ah ouais. Bah, j'ai juste pas su reconnaître ce truc de ah tiens, j'ai envie de ça. Voilà. Moi, ça a commencé comme ça, en tout cas. Et après, petit à petit, bah, de fil en aiguille, la vie quotidienne aussi, on sait tous qu'on a notre vie. Moi, j'ai des enfants, j'ai tout ça, et on a tous nos occupations. Et en fait, du coup, comme on n'entend pas nos propres be besoins, bah, t'inquiète pas, la vie, elle va combler d'autres choses, en fait. Ah, bah, tu prendras le temps pour toi, tu fais pas ce que t'aimes. T'inquiète, j'ai trouvé autre chose à caler dans ton agenda, il n'y a pas de problème. Hein.
Un atelier du
Et
vide.
du coup, voilà, c'est ça. Et en fait, après, du coup, bah, on se retrouve à dire, bah, en fait, j'ai pas la place. Mais c'est nous qui avons créé ce manque de place. C'est pas
Oui,
l'inverse.
complètement. Et c'est très, très vrai ce que tu dis. Je crois que la base de tout, que ce soit burn-out, bore-out, ou, enfin, dès qu'on commence à se sentir mal dans une situation, elle peut être pro, perso, quelle qu'elle soit, c'est que on n'a pas respecté nos besoins. Encore faut-il les connaître. Pas forcément instinctif dès le départ. On se dit, ouais, on croit avoir certains besoins et tout, et pas avoir défini ses limites aussi. Parce que moi, ça a été beaucoup ça. C'était mes besoins, je les connais. Je savais ce qui m'épanouissait dans le travail. Et j'ai accepté ce poste en me disant, bon, c'est un challenge, je vais y arriver, même si le début était un peu chaotique. Mais bon, ça ira. Mais en fait, j'ai jamais posé mes limites. Parce que est-ce que je sais que je les connaissais pas? J'en sais rien. Mais à un moment donné, justement, quand on sent un petit truc, une petite voix intérieure, ou ah, on n'est pas bien, ou juste dire j'ai pas envie d'y aller, je suis pas motivée, juste ça déjà, ça peut être un premier signe. Et là, juste déjà à ce moment-là, se dire mais en fait c'est quoi que j'ai vraiment besoin pour être bien? Qu'est-ce qui me nourrit? retourner dans son passé, se dire, mais quand j'étais enfant, c'était quoi qui me faisait kiffer, en fait? Et que je nourris plus du tout aujourd'hui, ça peut être des petits trucs comme ça qui peuvent aider. Et après, se dire, là, il y a des limites qu'il faut pas dépasser, je me sens pas respectée, je me sens pas en paix, je me sens pas en sécurité. Et c'est quoi ces limites? Pas facile non plus de définir ça, mais quand déjà on se pose la question, ça peut aider à se dire, ouais, non, ok, là, ça va trop loin, il faut que je fasse quelque chose et je peux être complètement acteur ou actrice de ce que j'ai à vivre, alors qu'on croit, ouais, comme disait Laura aussi, que ça vient de l'extérieur. Moi, je disais, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute, j'avais un chef à la con. Il était con, certes, ça n'empêche pas, hein, les injonctions
Ça
extérieures.
n'empêche pas.
J'avais ma part de responsabilité et j'ai jamais osé exprimer au-dessus de moi, à ma hiérarchie, à ma RH, que ça allait pas. Parce que c'était comme un abus de faiblesse. Enfin, c'est comme ça que je le vivais. Ouais, si je dis que ça va pas, on va croire que je suis faible. Si je dis que ça va pas, on va me dire que je suis pas capable d'être manager, etc. Enfin, je me suis fait des films pas possibles. C'était mes propres croyances, en fait. Et du coup, par peur, il y a aussi ça, les peurs qu'on peut avoir de pas être reconnu à l'extérieur dans ce qu'on fait ou, eh ben, du coup, on n'ose pas dire ce qui va pas. On n'ose pas dire non, là, c'est trop ou pas assez ou, et puis on s'enfonce doucement, insidieusement, jusqu'à ce que le corps il dise stop. Et là,
C'est
ça fait
ça.
mal.
C'est exactement ça. Tu parlais des signes tout à l'heure. Les filles, je suis complètement d'accord à 1000% avec ce que vous avez dit. En fait, ce qui est un peu triste, bon, en tout cas, moi, dans mon histoire, c'est que il y a eu beaucoup de signes que je n'ai pas vus pendant de nombreux mois. Et puis d'un coup, il y a des signes, mais qui sont beaucoup plus embêtants. C'est une fatigue intense. C'est-à-dire que moi, mon goal de la journée, c'était d'arriver à l'heure, de pouvoir aller dormir, quoi. Clairement. Et le matin, je me réveillais avec cette tristesse de devoir quitter mon lit. C'est-à-dire que c'était même plus. Ma journée ne fait plus sens et j'ai plus envie de cette journée, mais c'était en fait, il y a que dans mon lit que je me sens bien. Donc voilà, vraiment une fatigue très lourde, une fatigue que j'avais jamais connue avant. Il y a aussi ce truc de profonde tristesse. On rit de, c'est bête, hein, mais on rit de moins en moins. On a de moins en moins envie. Alors c'est un cercle vicieux parce que j'avais de moins en moins envie de faire ce qui m'apportait de l'énergie et ce qui me plaisait. Comme Marie, je suis très créative et en fait, bah, je faisais plus toutes ces activités-là et je n'avais plus envie de les faire. Donc même si dans mon cerveau, j'étais capable de me dire, OK, si je veux aller bien, il faut que je fasse ces choses, c'était devenu trop lourd en fait. La seule chose qui était possible pour moi, c'était de pleurer. Chose que j'ai peut-être pas assez faite ces dernières années parce que clairement, l'année 2023, c'est l'année où j'ai le plus pleuré. C'est de me reposer, c'est de parler avec mes proches et bien évidemment, on en parlera, c'est hyper important, aller voir des professionnels qui sont experts dans ce domaine-là parce que c'est complexe en cerveau au final. Donc seul, on peut pas se sortir de ça seul. Voilà, il y a des solutions, on peut être capable de dire, moi j'étais très capable de me dire. Ça fait plus sens en fait l'entreprise que j'ai aujourd'hui entre les mains. Je sens que j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de tester d'autres choses. Oui, j'ai envie, par exemple, moi j'adore la danse, j'ai envie de faire de la danse, donc je vais me bouger les fesses, je vais aller faire un cours de danse. Mais en fait, là, c'est trop tard, il y a un vrai travail à faire. Et du coup, c'est bien de prendre ces initiatives-là et de se forcer, entre guillemets, à faire des choses qui vont nous apporter. Le sport peut faire du bien, la marche, plein d'activités comme ça. Mais en fait, il y a un moment où il faut faire le travail. Et avant de faire ce travail, je parlais tout à l'heure de l'acceptation, mais c'est tellement important. S'il y a vraiment une leçon que je dois retenir là, de ce qui s'est passé pour moi, c'est vraiment. Il y a un moment où il faut accepter, et accepter si c'est passé 3 jours dans ton lit sans bouger, sans te laver, sans parler à personne, et ben tu le fais en fait. Enfin, vraiment, voilà, être dans l'acceptation de ce qui se passe sans penser à une solution ou à une réaction immédiate. La solution, elle va arriver après, tu vas travailler sur toi, tu vas te faire accompagner, etc. Mais là, d'abord, si tu as besoin de tout lâcher et de juste te reposer, fais-le, quoi.
Alors, juste avant de rebondir, j'aimerais juste poser une question, Laura, parce que tu as dit, bon, bah voilà, j'avais eu des signes qui étaient, on va dire, plus discrets, jusqu'à ce que les signes deviennent flagrants. Quels ont peut-être été ces signes plus discrets que tu as peut-être pas vus ou pas écoutés à cet instant-là?
Alors, en fait, si je suis capable de dire ça aujourd'hui, c'est parce que par contre, j'ai une super habitude depuis des années, c'est que je fais du journaling depuis toujours et quasiment tous les jours. Et donc, en
C'est bien.
fait, quand j'ai commencé à avoir des signes plus alarmants, je me suis mise à relire mes pages de journaling des mois, du début d'année, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, inconsciemment, j'étais déjà très au courant de mon état. Donc, à savoir, cette activité-là, elle fait moins sens pour moi. Ça va être aussi peut-être un signe que j'ai remarqué quelques mois après, c'est les sautes d'humeur. Des disputes inhabituelles avec mes proches, des choses qui en plus n'étaient pas tellement logiques, tu vois, des prises de décision un peu plus récurrentes, c'est-à-dire besoin de changer, mais changer quoi, je ne sais pas, donc peut-être que je vais prendre un peu plus de décisions que d'habitude. Voilà, donc ouais, globalement, c'est ça en fait. Des problématiques dans les relations qui n'étaient pas là avant, une sensation de plus être à sa place.
Ouais.
Mais sans avoir de conscience de ce qu'on a envie de faire par la suite ou voilà, c'est juste ouais, avec le recul, c'est ça, c'est se sentir perdu, ne plus avoir de sens et puis avoir envie
Ouais.
de changer, mais ne pas savoir quoi.
Oui, complètement. Ben, du coup, je te rejoins. Déjà, merci pour tous ces partages, les girls. Moi, il y avait aussi beaucoup de. Donc, il y avait le manque de passion, comme tu disais, Laura, genre ce côté où tu sens que tu préférerais rester dans ton lit en mode ah non, aujourd'hui, j'ai pas envie de me lever, plus d'énergie du tout pour faire justement ce que j'aimais également. J'étais là en mode ouais non en fait même ça me plaît. Enfin, moi je me rappelle vraiment de ces moments où j'étais encore en Bretagne et même sortir dehors pour aller marcher à la mer c'était painful en fait. Je n'y arrivais pas, j'avais mal à la tête même si je sortais sans mon téléphone, sans quoi que ce soit, sans rien, juste le fait de sortir et d'être en interaction même avec la nature, avec l'extérieur. C'était vraiment, c'était lourd en fait. Enfin, il y avait vraiment ce côté de, non, en fait, je veux plus bouger. Le fait de pleurer aussi beaucoup. En fait, enfin, vous me connaissez, et puis même les auditeurs me connaissent aussi, auditrices me connaissent aussi. Enfin, je suis quelqu'un de très optimiste, très jovial. Et là, pareil, je pouvais passer des journées où je me levais le matin et la première chose que j'avais envie de faire, en fait, c'était de pleurer. Enfin, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas moi, en fait. Enfin, c'est pas moi. Donc, il y a eu vraiment tous ces signes-là. Et puis aussi, bah ça, c'est grâce aussi à Marie et à Laura, parce qu'on échange beaucoup ensemble. Mais ça a été vraiment le truc où, quand je me pose beaucoup, 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 beaucoup de questions, mais déjà que je me pose beaucoup de questions en général, mais que là, ça devient vraiment un tourbillon, en fait. Ça, pour moi, ça a été aussi un signe de commencer à questionner tout, à questionner rien, et en même temps de faire des questions sur des questions sur des questions. Là, en fait, c'est que potentiellement, pour moi, ça a été aussi un signe de me dire, oula, là, il va peut-être falloir prendre un peu de recul et revenir juste là, ancré dans la vie. Et donc. Ouais, pour moi, je dirais que ça aussi, ça a fait partie des signes un peu avant-coureurs et à prendre en compte. Quand vous, justement, vous avez peut-être pris la décision de mettre en place quelque chose pour votre dépression, votre burn-out, votre burn-out, votre épuisement, qu'est-ce que vous avez choisi de mettre en place? Et Marie, tout à l'heure aussi, tu parlais justement de médication. Pour celles ici qui ont peut-être pris de la médication, est-ce que ça a été facile pour vous ou est-ce qu'il y a eu un peu l'ego spirituel en mode non, mais je devrais réussir à tout faire par la pensée positive? Enfin voilà, comment est-ce que vous avez vécu la chose? Oui. Je ris déjà
Voilà.
parce que voilà la pensée positive à un moment donné elle a plus de pouvoir quoi parce que quand ton
Oui.
cerveau il est pas capable d'assimiler ce qui est positif ou négatif et que de toute façon il ne voit que le négatif, c'est pas
Ouais.
possible. Tu pourras te répéter des mantras tout nu en sortant sous la pluie, ça changera rien à ta vie. Hein.
Ouais,
Enfin
complètement.
voilà, en tout cas pour moi c'est pas possible. Moi personnellement le médicament m'a sauvée. Je le dis. J'en ai eu honte. Pour moi, c'était pas acceptable de prendre des médicaments. C'était un échec personnel. Je le pensais jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, ça m'avait sauvée. Alors, moi, le choix de prendre des médicaments, parce que ça reste un choix, clairement m'a sauvée. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de reconnaissance qu'on puisse être dans un pays qui permet l'accessibilité à ça, parce que je pense que je serais morte à l'heure d'aujourd'hui. Et je le dis. Parce que j'ai eu vraiment les envies de suicide, l'envie de mourir, des conversations avec mon conjoint à me dire, à pleurer, à lui demander combien de fois il pensait à la mort par jour et de me rendre compte que c'était pas normal. Et qui me regarde avec ses yeux ébahis, de me dire, mais en fait, je pense pas à la mort tous les jours. Et de me rendre compte qu'en fait, c'était pas possible. Et en fait, moi, personnellement, c'est vraiment, pour le coup, l'extérieur qui a fait que je me suis réveillée. Parce qu'il y a des gens, en fait, ma sœur a tiré la sonnette d'alarme. Elle a appelé mon conjoint. Et c'est là aussi où je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est triste à dire. Parce que on aime les personnes avec qui l'on vit, et peut-être que vous êtes tout seul ou pas, mais vous ne pouvez pas et vous n'avez pas le droit de compter sur la personne qui partage votre vie pour vous sauver. Parce que cette personne-là, elle vit la dépression ou elle vit le burn-out avec vous. Et elle vous aime tellement qu'elle va elle-même occulter les signes qui font qu'elle vous voit malheureux parce qu'elle veut vous voir à tout prix aller mieux. Et en fait... ça c'est hyper important pour moi parce que mon conjoint, bah, pareil, il s'en est rendu compte. Voilà, les médicaments, j'ai été les chercher, j'ai été chez le médecin. C'est assez flou ce passage-là. Pour moi, j'ai du mal à m'en souvenir. Je me souviens juste qu'une fois que j'avais été chercher les médicaments, en fait, je me suis dit que bah, j'avais fait mon job. J'avais été chercher les médicaments, maintenant je pouvais partir, c'était OK en fait. J'avais fait mon acte de ma BA, en fait, en gros, de dire, bah, on m'a dit d'aller chez le médecin, d'aller prendre des médicaments. Je l'ai fait. Maintenant, je peux mourir, en fait. C'est pas très grave. Et heureusement, je l'ai pas fait. J'en suis bien heureuse. J'ai commencé les médicaments et ça a été très chaud, hein. Honnêtement, déjà, on n'est pas bien, mais moi, j'ai passé 2 mois à dormir tout le temps. Je dormais tout le temps. Mais 4 heures dans l'après-midi, comme ça, je dormais, mais constamment. J'avais l'impression d'être défoncée au haschich, quoi. C'était assez fou, quand même. Donc, alors, à la fois, c'était agréable parce que mon corps, en fait, il flottait et que ça m'a apporté un tel soulagement. En fait, honnêtement, je pense que ça m'a apporté le soulagement que je recherchais dans la mort, en fait, tout simplement. Et c'est le médicament qui me l'a donné. Parce que en fait, mon cerveau, j'arrivais à l'éteindre. C'est fou de se dire que j'étais au médicament m'a permis d'éteindre un minimum mon cerveau. Le fait de dormir, c'est tout, dormir. Alors oui, ça a été dur hein, parce qu'on est capable physiquement de rien. En tout cas, moi, je suis capable de rien du tout. Et du coup, on se dit, mais en fait, c'est pire. C'est pire. On me donne un médicament, mais c'est pire. Avant, j'étais à peu près maître de mes mouvements et de mon corps, et là, j'en suis même plus maître de mon corps. Donc, en tout cas, pour moi, au début, ça a été très dur, et après, pareil, en parlant énormément avec mon médecin traitant, moi, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir un médecin traitant qui m'a donné énormément d'informations sur les effets, comment ça allait se passer, le temps, me dire qu'il fallait 6 à 8 semaines avant que mon corps comprenne en fait que je pouvais lâcher et que le médicament allait prendre le relais. Avant que je reprenne, en fait, de ne plus avoir autant envie de dormir. Et ça, j'ai eu la chance de ça. Parce que je dois avouer que dans les souvenirs que j'avais des gens qui étaient en dépression, qui avaient pris des cachets, c'était « Oh, bah, vous faites une dépression. Bon, on va vous mettre sous médoc, quoi, sous antidépresseur. » Ok, d'accord, très bien. Mais moi, j'ai eu vraiment la chance d'avoir un médecin qui m'a expliqué, et ça, je trouve ça hyper important. Si aujourd'hui, vous allez chez le médecin, et vous pouvez commencer par un médecin traitant, parce que voilà, si vous avez une bonne relation avec votre médecin traitant, bien évidemment, parce que, voilà. Dans tous les cas, il faut une personne neutre qui ne partage pas votre vie, c'est clair. Pour moi, c'est indéniable. Ouais. Et un professionnel de santé. Et surtout, si vous sentez à la fin que cette personne vous a mis sous antidépresseur, mais que vous n'avez pas eu de réponse suffisante à vos questions, allez voir quelqu'un d'autre, en fait. Parce que si vous faites la démarche de dire mon médecin m'a dit de prendre des médicaments, mais vous n'avez pas le processus intentionnel de dire ok, c'est à ça que ça va ressembler, même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, ben en fait, moi j'avais les réponses. Et par exemple, ma deadline c'était ok, 6 semaines, 6-8 semaines. Déjà, c'était ma seule deadline, c'était ok, je vais être un cadavre pendant 6 à 8 semaines, on va voir, on verra. Moi, je ne mangeais plus, enfin voilà, c'était vraiment terrible. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça m'a sauvée.
Ouais, j'ai une expérience très similaire à la tienne, Marie.
Je parlais d'acceptation, parce qu'encore une fois, c'est un mot qui me semble important. En fait, je n'ai pas accepté toute seule. J'ai accepté parce que j'ai décidé de me faire aider, parce que je ne savais plus quoi faire, et que les médicaments m'ont permis à un moment donné d'accepter, parce que de toute façon, le corps ne se levait plus. Donc, il y avait plus d'autre choix. Moi, je me souviens de la journée, je crois que j'en avais parlé avec Prudence ce jour-là, où en fait... Ça allait tellement plus que ça s'est transformé en une espèce de grosse crise d'anxiété où, où je pleurais et vraiment je sentais que quelque chose de grave était en train de se passer. Mais j'avais encore ce truc de... c'est un peu de fatigue, mais je pense que j'ai besoin de voir un médecin. Moi, j'avais pas encore le courage là, à ce moment-là d'aller voir mon médecin traitant, parce que mon médecin traitant, c'est celui qui me suit depuis des années, donc il m'a toujours connue forte. Donc pourquoi est-ce que j'irais lui dire que d'un coup, je suis plus forte et que ça va pas? En plus, j'allais forcément me mettre à pleurer, donc il était hors de question que j'aille le voir. Donc en fait, je voulais aller voir un inconnu, mais qui était vraiment spécialisée dans la santé mentale. Donc, je me souviens avoir tapé sur Google psychiatre avec le nom de ma ville, etc. J'ai regardé les avis. J'ai pris l'avis qui me semblait le plus adapté à ce que je recherchais. J'ai appelé le monsieur. Je me souviens, j'étais tombée sur la messagerie, donc je pleurais davantage et tout. Il m'avait rappelé tout de suite, le gars était très sympa. Et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai vraiment besoin d'aide. Je vous appelle vous parce que je ne suis pas capable d'en parler, parce que même à mes proches, tu vois, c'était vraiment une honte pour moi. Et donc, en fait, j'ai juste besoin de vous, quand est-ce que vous êtes disponible? Et donc, il m'avait dit de passer dans la journée. Et en fait, on avait discuté, c'était un premier rendez-vous, on avait un petit peu discuté. Déjà, rien que ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc, j'étais toujours pas dans l'acceptation, mais ça avançait un peu. Il m'avait dit, je pense que là, le mieux, en fait, c'est de prendre des médicaments. J'avais dit, surtout pas, j'ai une entreprise à gérer, je peux pas prendre des médicaments. Et en fait, il m'avait dit, mais ça, en fait, le médicament, ça va pas vous éteindre complètement. Bien que c'était un peu ça quand même au final, mais il m'avait expliqué que c'était comme une capsule qui allait mettre justement ma souffrance du moment qui était hyper handicapante en mode protection et venir apaiser en fait tout ce que je ressentais au quotidien. Et moi, j'ai vécu un truc un peu particulier, c'est qu'il m'avait dit, il m'avait expliqué comme toi, Marie, que ça allait prendre du temps. Et en fait, 2 jours après, je crois, avoir pris le premier médicament, je faisais des comas, c'est-à-dire que je dormais, mais c'est une puissance, c'est vraiment bizarre. Et je me souviens, lors de notre deuxième rendez-vous, donc je lui dis, ça y est, j'ai commencé mon traitement, etc. Et je lui dis, par contre, je dors tout le temps. Il me dit, c'est bizarre, normalement, ça prend quand même 3, 4 semaines avant d'avoir les premiers effets. En fait, c'est comme une sorte d'effet placebo. Mon corps avait enfin accepté que c'était le moment de se reposer et je dormais, mais vraiment comme jamais. Et comme tu dis, à la fois, c'est un peu effrayant parce que tu dis, ben, ça y est, je suis une larve, ça va durer des mois comme ça ou des années, et voilà. Et à la fois, ben, c'est tellement agréable parce qu'en fait, d'un seul coup, plus rien n'a d'importance sauf te reposer et prendre soin de toi. Et voilà, et juste pour terminer sur les médicaments, mon expérience, elle est un peu bizarre aussi parce que donc je me suis reposée moi pendant 1 mois et demi. Au bout d'un mois et demi, j'ai décidé d'arrêter les médicaments. Encore aujourd'hui, je suis pas capable de dire si c'était une bonne décision ou pas, mais c'était ma décision. J'ai fait en sorte que mon environnement soit un nouvel environnement. Il m'a beaucoup apporté. Ça, c'est vraiment moi le truc qui m'a sauvée pour le coup, de me placer dans un environnement qui était safe pour moi et qui était vraiment au service de mon bien-être, tout simplement. Et du coup, ouais, j'ai arrêté progressivement. Bien sûr, il faut faire très attention avec les antidépresseurs, mais j'ai arrêté, du coup, moi, hyper rapidement. Donc voilà, ce qui n'était pas forcément le conseil de mon médecin au départ. Il y avait peut-être encore cette croyance de j'ai pas besoin de médicaments, etc. N'empêche que pendant 1 mois et demi, en fait, je ne sais pas si c'était l'effet placebo ou autre, mais ça m'a fait un bien de fou. Donc, c'est le principal.
Ah, c'est fou, on a tous des parcours complètement différents. Et alors, moi, le truc, alors je voulais juste rebondir sur une petite chose que tu as dit, Prudence, tout à l'heure, juste avant de passer sur comment j'ai commencé à m'en sortir. C'est quand tu as parlé du questionnement qu'on a en permanence dans la tête. Ça m'a fait tilt quand tu as dit ça, parce qu'effectivement, un des alerteurs assez incroyable, je ne l'avais pas identifié comme tel, donc merci pour ce partage, c'est que quand on commence à se faire des nœuds au cerveau. qu'on se remet en question. Moi, je me disais, oui, mais bon, c'est peut-être que je suis pas assez bien. Alors, je cherchais comment aller mieux. Ou c'est peut-être que j'ai pas fait les bonnes choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Comment faire? Et en fait, c'est pas fluide. C'est tout au forceps, en fait, tout ce qu'on veut faire. Et me dire, oui, bon, ben, si je pars au matin, le matin, à mon travail, et que j'ai la boule au ventre, c'est juste parce que j'ai pas bien dormi. Alors, on cherche des tas d'excuses. Et alors qu'en fait, bah justement, si on commence à se poser plein de questions comme ça, c'est là que ça cloche. Il y a un truc qui cloche. Et ça, j'ai envie de faire un parallèle avec la relation amoureuse, en fait. Quand on est dans un projet, que ce soit avec son entreprise, avec son patron, comme avec un amoureux, en fait, c'est en gros, est-ce que j'ai envie de me marier avec? Et moi, je savais que j'avais pas du tout envie de me marier avec le boulot qu'on me proposait, parce que ça m'allait pas. Mais je me disais, oui, ça va le faire. Comme quand on rencontre un nouveau chéri, puis qu'on se dit, oh ouais, celui-là, il me plaît bien et tout, mais quand il y a un côté où on sait que ça va pas, alors on se fait plein de nœuds. En fait, c'est exactement le même déroulement. Et le truc qui me vient là, et moi, je sors d'une formation là ce week-end où c'était la reprogrammation du cerveau, donc tout ça me parle beaucoup. Je dis, mais est-ce que tu as envie de te marier avec ce que tu es en train de vivre là? Si t'as pas envie de te marier avec, c'est que là, il y a quelque chose à réajuster et qu'il faut prendre un petit peu de recul, se reposer. Et soit dire stop, soit ajuster et trouver des moments pour soi avec dans les autres domaines de vie que celui dans lequel on vit quelque chose de compliqué, parce que c'est ça aussi. C'est que souvent, quand on va pas bien, on focalise toute notre énergie sur le truc qui va pas. Vraiment. Mais c'est inconscient, enfin, parce que ça nous prend tellement la tête que ça occupe 100% de notre cerveau. Et du coup, on génère du cortisol à fond, l'hormone du stress. Sauf que c'est tellement à fond et tout le temps H24 qu'à un moment donné, ben, notre corps, il arrive plus à, enfin, notre tête n'émet plus les bonnes neurochimies, il n'arrive plus à réguler. Parce que c'est too much et ça vide nos batteries. C'est pour ça qu'on a autant ce sentiment de fatigue. Parce qu'on lutte en permanence contre au lieu d'accueillir et d'accepter ce qui
C'est ça.
nous arrive et de
Complètement.
l'écouter. Ça épuise, ça, en fait. Et moi, alors moi, contrairement à vous, j'ai pas eu la médication. Mais je pense que j'ai eu la chance d'arrêter. Au bon moment. C'est-à-dire que moi, ça s'est manifesté toutes les 2 années où j'étais pas bien dans mon travail. J'ai lutté, lutté, lutté. Donc, je me suis épuisée au point que à la fin, enfin les derniers mois, je partais au travail. On me demandait juste de, par exemple, lire un document sur mon écran d'ordinateur et d'en extraire 3 informations. Enfin, on ne pouvait pas faire plus bête et méchant comme acte. J'arrivais même pas à le faire. C'est comme si, mais attends, je suis fatiguée, mais j'arrive pas à le faire, quoi. Alors que c'était un truc mais complètement basique. Et là, on commence à se dire qu'on devient folle. Je suis plus capable, je deviens nulle, etc. Et il y a eu ce déclic un matin, en fait, où c'est ma responsable. Moi, c'est ça qui m'a sauvée. Une de mes responsables qui me voit arriver sur le parking, mais en mode down. J'avais déjà les larmes aux yeux à l'idée de venir travailler. Et elle me dit, oh, ça a pas l'air d'aller. Ah non, ça va pas du tout. On monte au bureau et elle me reçoit dans son bureau juste pour me dire qu'est-ce qui va pas. Et c'est-à-dire que là, subitement, il y a une personne qui s'est intéressée, qui a vu que j'allais pas bien et qui m'a écoutée, en fait, ou qui a cherché à me faire parler. Et là, je suis partie en live, j'ai pété les plombs dans le bureau, mais je me suis effondrée en sanglots, hein. Mais j'ai eu toutes les semaines qui précédaient, j'avais des migraines toutes les semaines. Voire 3, 4 fois par semaine, à tel point que je suis allée voir un neurologue en me disant peut-être j'ai une tumeur au cerveau. Enfin, voilà, c'était ça. Parce que je voulais pas écouter moi. Les signes de mon corps, c'était les migraines.
Oui,
Et
moi aussi.
là, quand j'ai pété les plombs, je me suis arrêtée. Mais j'ai tué comme une mule, je vais y arriver. Je dis non, 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 c'est bon, je vais passer une bonne nuit. Demain, je retourne parce que voilà, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et c'est ma sœur qui m'a sauvée. Et là où c'est là où l'environnement extérieur, les gens, c'est important de s'entourer des bonnes personnes. Ma sœur a fait 3 burn-out, donc sérieux aussi. Et ma sœur me dit, vient me voir le lendemain et elle me dit, mais t'as vu là dans l'état où t'es? Alors là, elle m'a foutu la tête au fond du trou, en fait. Elle m'a dit, mais regarde-toi, quoi. Elle me dit, tu retournes pas au boulot demain? Si, si, je vais y aller, je vais y aller. Non, tu retournes pas au boulot. Elle m'a interdit d'y retourner. Et en fait, le lendemain matin, j'ai pas pu me lever. Donc, du coup, j'y suis pas allée. Et là, il y a eu un déclic et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je remettrai mes pieds dans cette boîte. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, la cause, c'était la boîte. Et là, je me suis arrêtée. Et bon, arrêt de maladie. La différence de quand on est entrepreneur, c'est que là, il fallait que je justifie pourquoi j'allais pas travailler en plus. Donc ça, c'est aussi un truc qui a été compliqué. C'est avoir à justifier que je vais pas travailler, que je suis mal vis-à-vis de mon employeur. Et ça, c'est terrible, par contre, pour moi. Quand on est entrepreneur, on s'arrête. Bon, c'est terrible à justifier vis-à-vis de l'entourage. Mais là, il fallait que j'aille faire des papiers, donc obligé d'aller voir un médecin. Pas le choix, pour le coup. Médecin, bof, bof, oui, bon, il m'a mis un arrêt de 15 jours comme ça pour me dire qu'il m'arrêtait parce que j'étais quand même vraiment pas bien. Et après, c'est là que j'ai dit, j'ai eu, je sais pas, cet instinct de survie qui a été là en disant, faut que je m'en sorte, faut que je me fasse aider. Et là, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre qui, honnêtement, ne m'a pas servi à grand-chose parce que je devais aller le voir tous les mois. Mais comment vous dire que cette personne-là n'a pas eu la parole ou... Sauf une chose, c'est que le premier rendez-vous que j'ai eu, moi, j'avais un rêve, c'était de créer mon entreprise. Et je suis une créative, comme vous aussi, les filles, j'aime faire beaucoup de choses de mes mains. Et là, il m'a dit, mais... qui va vous sauver, c'est votre projet. Parce que j'avais déjà un projet en tête, mais il me dit, accrochez-vous à vos rêves, faites ce qui vous plaît et faites vos projets. Et c'est là que j'ai commencé la maroquinerie et que je me suis enfermée dans mon atelier, en fait. Et puis, j'ai fait des sacs, des sacs, des sacs, des sacs. J'ai fait de la couture. Je faisais plus rien d'autre. J'ai fait que ça. Et je m'occupais plus de mon conjoint, plus de mes enfants. J'étais dans mon atelier. Moi, ça a été ça, mon antidépresseur, en fait. C'était, je débranchais mon cerveau parce que je faisais des choses avec mes mains. Et j'ai fait ça. Et j'ai pas eu de médicaments. Enfin, j'ai refusé les médicaments, mais en même temps, il a pas insisté. Je pense que je me suis arrêtée, au stade où j'ai pu la chance d'éviter les médicaments. Enfin, la chance. Je pense que les médicaments, c'est très bien. Et Marie le disait très justement. Faut pas les refuser. Ils sont précieux selon le stade où on est. Moi, j'ai pas eu besoin de ça, mais ça a été, voilà, de créer avec mes mains. Et j'ai écouté cette part de moi et je me suis mise dans ma bulle et j'ai eu la chance aussi que mon conjoint à l'époque, enfin depuis mon couple est parti en vrille, mais en tout cas je croyais qu'il m'aidait et sa manière de m'aider c'était de me laisser tranquille parce qu'il savait pas gérer ça, il savait pas quoi me dire, il savait pas quoi faire, mais il me laissait tranquille et donc moi je me disais ben c'est une preuve d'amour donc c'est ok pour moi, mais en fait c'était terrible pour lui aussi, hein. Ils subissent, notre entourage subit. Et voilà, et j'ai eu tous les mois, j'ai été en arrêt comme ça pendant un an, en fait. Et petit à petit, je suis remontée avec mon projet, c'est ce qui m'a sauvée.
Avec le projet.
Ouais, un
Super.
projet, un truc
Franchement,
auquel je
merci pour vos
m'accrochais, quoi.
partages. Ouais, complètement.
Mais il y a un
Mais
truc que je
juste
voudrais
après,
préciser, Marie.
dis-moi.
Ouais, juste pour finir, Marie disait tout à l'heure, toutes les choses qu'on entend sur Internet, pratiquer la pensée positive, blablabla. Bla, bla. Oui, ok. Mais ça se fait pas parce qu'effectivement, on est dans un tel état extrême dans le négatif, on ne voit que le négatif et on aurait envie de se dire, ah ouais, mais il suffit de se dire que ça va aller mieux. Les amis qui vous disent, mais faut que tu sortes, faut que tu fasses des choses. Combien j'ai eu ça aussi, beaucoup autour de moi. Ouais, vas-y, mais viens, on va sortir, on va aller faire la fête, ça va te faire du bien. Mais fuck, j'ai pas envie d'aller faire la fête, foutez-moi la paix. Je me suis enfermée, en fait, j'avais besoin de m'enfermer. On n'a plus envie de voir les gens, on n'a plus envie de faire plein de choses. Foutez-moi la paix. Et ça, l'extérieur a du mal à le comprendre. Mais là, quand je me suis mise dans cette bulle, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah zut, j'ai perdu le
On
fil de ce
parlait
que
de
je
la
voulais dire.
pensée positive, que la
Oui,
pensée
voilà, la
positive, c'était
pensée
pas
positive.
suffisant.
Voilà, c'est ça. Parce que c'est tellement polarisé, c'est tellement à l'extrême opposé de ce qu'on vit que le gap, il est trop grand. C'est pas possible de dire j'ai pas envie de sortir mais viens on sort ça va aller mieux non je pense négatif bah pense positif non ça marche pas par contre le tout petit truc c'est d'accepter que ça va être il va falloir du temps et de faire un micro pas l'un après l'autre chaque jour une toute petite action et ça c'est difficile à comprendre et mais si on nous l'expliquait dès le départ quand on touche le fond et qu'on se dit bon ça y est là il faut que je fasse quelque chose c'est dire bah aujourd'hui, je fais une micro-étape. Je vais peut-être juste sortir de mon lit et aller sur le canapé. Et puis demain, j'irai du canapé au fauteuil. Et après-demain, j'irai du fauteuil à la cuisine et je vais prendre le temps de prendre un café avec mon chéri. Juste ça. Des toutes petites étapes. Et c'est ça qui fait qu'on s'en sort. On ne peut pas passer de l'extrême à l'autre. C'est pas possible.
Complètement.
C'est comme si on demandait à quelqu'un qui a jamais fait de sport d'un seul coup de gravir en haut de l'Everest, quoi. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment, il faut du temps. Il faut accueillir le fait qu'il faut du temps. Et ça, c'est vraiment, vraiment la clé de la réussite pour s'en sortir.
Je suis complètement d'accord dans ces situations. C'est vraiment un jour après l'autre, en fait, même presque au tout début, peut-être une heure après heure ou même une demi-heure après une demi-heure. Je vais faire un partage aussi là-dessus pour rebondir sur ce que vous disiez. Et après, j'aimerais parler justement du poste. Burnout, dépression, burnout. Mais avant, j'ai une autre question aussi à vous poser. Donc, je vais faire dans l'ordre. Moi, je rejoins aussi, donc là, tout ce que vous dites. Moi, j'ai plus été aussi dans la situation de Marie et Laura, dans le sens où quand j'ai vu justement que vraiment je sombrais et que je me levais tous les matins justement avec l'envie de pleurer, j'ai été consulter un médecin, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est vrai que on vous le redit, mais consulter un médecin, d'accord? On n'est pas là pour vous dire, OK, bon ben, prenez des médicaments, prenez pas des médicaments, oui, vous êtes en situation de dépression ou de burn-out, on n'est pas du tout là pour ça. La seule personne qui peut le faire, c'est justement une personne qui est spécialisée. Donc, allez consulter si jamais vous avez des doutes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, pareil, j'ai pris des anxiolytiques, des antidépresseurs, je les avais demandés aux plantes parce que je ne voulais pas que ce soit trop fort, je me rappelle. Et puis du coup, j'étais plus là en mode, bon, bah allez aux plantes au moins, et voilà. Et pour le coup, moi, ça ne m'avait pas, en tout cas dans mon souvenir, ça ne m'avait pas assommé au point de plus réussir à me lever. Mais par contre, je me sentais en effet plus neutre en fait, plus ok. Bon, bah là, je me lève ce matin, bah, j'ai plus forcément envie de pleurer. Ça peut m'arriver encore, mais en même temps, je me repose et je me rappelle que j'avais pris 3 semaines complètes de déconnexion en août l'année dernière, en 2022, où j'étais là. Non, mais c'est bon, je désinstalle Instagram, je désinstalle tout et juste en fait, je sais pas, je me détends, je comate pendant 3 semaines, je jouais aux jeux vidéo, parfois j'écoutais de la musique, et en fait, c'est vraiment petit à petit où. Je recommençais à avoir envie de refaire des choses que j'aimais, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ensuite, comme Laura, moi, j'ai arrêté au bout d'un mois, parce que le médecin que j'avais été voir, je dis pas qu'il m'a mal accompagnée, mais je dirais pas non plus que ça a été le meilleur accompagnement du monde. Et donc, on avait dit, bon, bah, on va essayer déjà pendant un mois et on verra après. Donc, voilà, moi, j'avais fait pendant un mois. Au bout d'un mois, je sentais que je commençais à remonter la pente. Et donc, bah, j'ai choisi justement d'arrêter la médication, suite aussi à ce qu'on avait vu avec le médecin. Et donc, après, j'en ai pas repris. Et donc petit à petit, voilà, ça a été la pente a été remontée, et donc après, ben, il y a eu justement ce côté poste. La question que j'ai avant ça, c'est pour vous, quelle différence est-ce que vous faites entre une personne juste qui adore son travail et donc qui va travailler beaucoup versus une personne qui se mène peut-être dans sa façon de travailler au burn-out, à la dépression, au burn-out, etc. Pour vous, c'est quoi la différence?
Pour moi, c'est qu'elle essaye de se convaincre au quotidien.
Okay.
Dans ses actions, en fait. Il n'y a pas une action qu'elle va faire sans se poser une question derrière. Bon, ça revient du coup au fait de se poser beaucoup de questions. C'est que du coup, chaque petite action, aussi infime qu'elle soit, alors que c'est des actions qui auparavant pouvaient être complètement anodines et qu'elle faisait sans se poser des questions, du coup, en fait, ça devient une difficulté, c'est devenu une difficulté par la force des choses et que cette personne, en fait, elle essaye de se convaincre de son quotidien. Peu
OK.
importe que ça va aller, que si c'est ça, qu'elle n'a pas le choix, enfin, peu importe l'excuse, en fait, en fait, elle essaye de se convaincre. Ouais.
Okay.
C'est complètement ça. Je suis d'accord avec toi, Marie. C'est vraiment ça. C'est les nœuds qu'on se fait au cerveau, alors qu'on ne devrait pas. En fait, quand c'est aligné, quand c'est fluide et que ça va bien, on ne se pose pas de questions. On y va. On y va, on est
Enfin,
heureux d'y aller.
on s'en pose, mais différemment, je dirais. C'est-à-dire que ça,
Voilà.
pour moi, en tout cas, j'avais pas d'attente sur les propres questions que je me posais. Alors là, ça devenait vraiment, enfin, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, tu as des questions, c'est pour avancer, ok. Mais quand ta question, en fait, c'est une propre attente sur toi-même, à un moment donné, voilà, quoi. C'est un peu compliqué, quoi.
Moi, la grosse question que je me posais tout le temps, c'est mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai pas envie d'y aller? Pourquoi je suis fatiguée? Et j'essaie de comprendre, de trouver une raison à tout. La raison,
Ouais.
c'est que juste, j'étais pas alignée, quoi. C'était pas beau pour moi.
Ouais, c'était pas au bon endroit.
Et c'est drôle parce que quand je vous disais tout à l'heure que je compare ça à une relation amoureuse, parce que bon, il se trouve qu'aujourd'hui, dans ma vie, depuis mon burn-out, j'ai divorcé. Et c'est très bien, c'est une vie qui se sépare et c'est OK, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je me suis mis en mode, ben voilà, j'ai envie de retrouver quelqu'un, j'ai envie de vivre autre chose. Et en fait, on reproduit ces schémas-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je rencontre une personne et bon, voilà, on se dit coup de cœur, on vient remplir en fait des trucs qu'on n'avait pas remplis avant, voilà, OK. Et puis un peu les you du début de relation. Et puis à un moment donné, tu te dis, mais ah, pareil, il y a un truc, ah, je sens que ça va pas le faire, mais je continue, puis j'y vais. Et puis plus les jours passent et plus je me pose des questions. Plus je me dis, oui, mais pourquoi j'ai pas plus que ça envie d'y aller? Ou ah oui, mais quand il fait ça me plaît pas, mais pourquoi je ressens ça comme ça?
Ouais.
Hein? En fait, c'est juste que ça n'allait pas du tout et je m'obstine et j'étais en train de plonger dans une relation comme j'ai plongé dans mon boulot. Parce que
Ouais.
je m'écoutais pas. J'écoutais pas cette petite voix, toutes ces questions que je me posais, c'est juste que bah ça va pas. Alors
Ouais.
qu'aujourd'hui, bah je vis une nouvelle relation là depuis peu de temps et là tout est tu te lèves le matin, t'y vas. Tu te sens en fait, tu te sens en paix, en sécurité et t'as envie. Si tu te sens ni en sécurité ni en paix et t'as pas envie, c'est des indicateurs flagrants en fait. Flagrant, flagrant.
Il y a un truc que je voudrais dire juste pour compléter, parce que je suis d'accord avec vous là-dessus, j'aurais répondu ça aussi. Et pour compléter, parfois c'est pas la situation qui doit changer. Je pense que ça, c'est un peu un piège dans lequel on est beaucoup à tomber. Parce que justement, on commence à se poser tellement de questions qu'on se dit il faut forcément changer la situation. Ça peut faire du bien, ça peut être une solution, ça peut être une solution alternative ou définitive, peu importe. Mais en fait, c'est vraiment, encore une fois, le travail en soi qu'il va falloir faire. Et du coup, en fait, c'est pour
Oui.
ça qu'on se recrée des schémas, parce qu'on pense que la nouvelle situation va venir nous sauver. Exemple, je me sens pas bien avec mon conjoint, je divorce. Je vais trouver un nouveau conjoint qui est complètement différent de lui, et puis d'un seul coup, je me replonge avec exactement les mêmes schémas, les mêmes comportements, les
Oui.
mêmes manquements, et c'est pareil dans le travail, c'est pareil dans tout. Donc, avant, on peut changer de situation, ça peut être encore une fois très bénéfique, mais c'est pas la première chose à faire.
Mais en fait, c'est là qu'on rejoint à bien définir ses besoins et ses
Oui.
limites.
Ouais.
Quand on sait ce qu'on a besoin, effectivement, bah, ça peut être ne pas forcément changer de métier, mais changer l'environnement du métier
Oui,
ou
la
ne
façon de
pas
le
avoir.
faire aussi.
Voilà la façon de le faire. Je suis entrepreneur, j'ai fait un burn-out parce que je suis entrepreneur, du coup, je retourne salarié. Peut-être c'est la solution, mais pas forcément. Et l'inverse, c'est vrai aussi. C'est pour regarder tous les domaines qui rentrent là-dedans et qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qu'on ne veut vraiment pas. Et ça peut permettre d'avancer comme ça. Mais ouais, c'est un vrai travail sur toi, tu as raison, Laura.
Ouais,
C'est pas l'extérieur qui nous guérit, c'est nous. Exactement.
Exactement. Et pour se découvrir là, ses besoins et pour faire ce travail, il faut d'abord passer par la phase d'acceptation. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Moi, je sais que comme ma décision a été de ne plus être à mon compte et d'être salariée, j'ai énormément d'entrepreneurs qui m'ont contacté à ce moment-là de ma vie pour me demander des conseils ou pour me dire qu'ils pensaient faire pareil. En fait, vraiment, je veux le dire, parce que du coup, je suis dans cette situation-là. Ça, c'est la solution qui... Enfin, c'est même pas la solution, d'ailleurs. C'est la conséquence. C'est plus une conséquence qu'une solution. C'est ce qui me correspond à moi, mais comme tu l'as très bien dit, il y a mille façons d'être entrepreneur, il y a mille façons d'être salarié aussi, mais d'abord, enfin voilà, encore une fois, d'abord, le travail, il est en soi. Et l'exemple de Nadine, l'exemple de Marie, l'exemple de Prudence ou le mien sont des exemples qui sont uniques. Ça peut faire du bien. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'entendre des personnes vivre ce genre de situation, parce que ça rassure. On se dit qu'on n'est pas seul. Ça permet d'avoir des prises de conscience aussi. Mais encore une fois, votre situation, elle est vraiment unique. C'est important de le dire.
Ouais,
Tout à
je suis
fait.
complètement d'accord. Je suis complètement d'accord et je rebondis sur ça et après on passe sur notre fameuse question du poste. Je pense aussi qu'il y a une notion, ce qui m'est venu en tout cas en vous écoutant, c'est aussi de s'autoriser à ce que les choses soient différentes. Parce que quand on est habitué, comme vous dites, à reproduire aussi certains schémas, j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu de... Alors,
Il peut y avoir aussi cette énergie de je connais pas mes besoins, je connais pas mes limites, je connais pas mes valeurs également, qui induit le fait qu'on reproduit certains schémas. Mais je trouve aussi qu'on est habitué à une on est habitué à être dans une société un peu de contentement, en mode ah oui, mais t'as déjà ça, c'est déjà pas mal, alors de quoi tu te plains? Ah oui, mais t'as déjà un compagnon, oh là là, il fait le ménage chez toi, il fait la cuisine, et tu te plains qu'il n'est pas à ton écoute, franchement, il faut pas non plus demander la lune. Ah oui, mais toi, quand même, t'as déjà un job dans lequel t'es libre de ton temps, enfin, je veux dire, de quoi tu te plains? Et je pense aussi que c'est ultra important à un moment donné de s'autoriser, aussi se donner la permission que les choses ont le droit d'être différentes et que oui, peut-être que pour les personnes de l'extérieur qui, eux, sont dans leur petit monde ou sont dans leur monde tout simplement, ben, peut-être que ça peut déranger en fait, ça peut déranger de se dire bah ouais, moi je veux un conjoint qui soit à la maison, qui fasse la cuisine, qui fasse le ménage, qui soit à mon écoute, qui prenne soin de moi, enfin oui, et en fait j'ai le droit d'avoir tout ça, et donc de se donner aussi cette autorisation de se dire les choses peuvent être différentes et j'ai le droit d'avoir mes besoins et mes limites remplies. Bien sûr que je me les apporte à moi et j'attends pas uniquement que ce soit l'extérieur qui réponde à tous mes besoins, etc., parce que c'est très important aussi de prendre soin de soi. Mais c'est également OK d'avoir une relation, d'avoir un job, d'avoir une vie qui correspond à nos valeurs, à nos besoins et dans lesquels on se sent bien, en fait. Donc, voilà, se donner aussi la permission. Et donc, du coup, parlons un peu de ce post-burnout, burnout, dépression. Comme vous le dites, ça prend du temps. Parfois, on veut aller vite. Mais voilà, comment est-ce que vous avez vécu le poste? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous croyez être, ça y est, c'est terminé, et en fait, boum, il y a eu une redescente? Ou est-ce qu'au contraire, c'est remonté petit à petit? Enfin voilà, comment est-ce que vous avez vécu ça?
Moi, j'ai fait du yo-yo. J'ai fait du yo-yo, comme je disais tout à l'heure. Moi, ça a été le fait voilà, d'avoir un projet et de créer mes mains. Pour autant, je pleurais tous les jours et j'ai eu la phase où j'étais toute la journée aussi dans le canapé à dormir. Et petit à petit, voilà, un jour, je faisais un petit coup de couture, le lendemain, un petit peu plus, puis un petit peu plus. Donc, vraiment prendre du temps. Mais moi, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que dans cette période qui prend du temps, alors, en neurosciences, on dit qu'il faut au minimum 2 ans, déjà pour remonter vraiment à la surface. Mais c'est jamais vraiment terminé en réalité. Mais il faut se donner 2 ans. Et 2 ans, tout simplement parce que quand on fait une dépression comme ça, nos hormones dans le cerveau sont complètement déréglées. Et on a la dopamine et tous ces machins-là, sans rentrer en détail, mais il y en a une en particulier qui est beaucoup, beaucoup challengée pendant une période après un burn-out, c'est les GABA. C'est une hormone qu'on a qui a pour effet de réguler nos pics d'humeur, qui fait qu'on peut passer de l'euphorie générale à « je suis au fond du trou, je pleure, ça va pas ». Et quand on est… moi, je sais qu'à dans cette période de dépression, je faisais ça, quoi. Je faisais du haut, du bas, du haut, du bas. Et je comprenais pas pourquoi je pouvais être bien pendant 10 minutes et puis après, en larmes, le quart d'heure qui suivait. Et ça a duré dans l'après, dans les 2 ans qui ont suivi. Je développais mon projet. Il y avait des trucs qui se passaient bien, j'avais des victoires, j'étais fière de moi, j'ai osé quitter mon entreprise. Enfin, voilà, tout a été plutôt positif. Et je me suis dit, waouh, je suis en train de réaliser mes rêves, en fait. Donc, du coup, dans ces moments-là, ça allait bien. Et puis, d'un seul coup, un petit grain de sable, genre un coup de fil, un commentaire que j'ai reçu sur mes réseaux sociaux, mais rien, quoi. Une petite mouche, là, qui arrive, qui se pose sur moi, et m'effondre. Et là, je comprenais pas. Et là, je m'en voulais, je m'en suis voulu. J'ai beaucoup culpabilisé. Mais pourquoi, alors que tout va bien, je sens ma dépression, j'ai quitté ma boîte, je fais mes rêves, je devrais aller bien. Et en fait, je plongeais régulièrement et je m'en voulais de plonger. Je disais, c'est que je suis pas capable, je vais pas y arriver. Et ça a été difficile à accepter, mais ça fait partie. Je l'ai compris après et on me l'a expliqué aussi avec des spécialistes en neurosciences qui m'ont dit « mais non, c'est normal ». Et moi, le truc que j'ai utilisé, alors je dis pas qu'il faut le faire pour tout le monde, mais ça vaut le coup de se renseigner, c'est que justement, comme ce taux de GABA, là, cette hormone qu'on a, et c'est une hormone naturelle, hein, elle met 2 ans à remonter à son seuil normal, en fait. Et c'est pour ça que pendant ces 2 ans, c'est normal qu'on vive ça, et qu'on ait ces ascenseurs-là d'énergie au bas, au bas, au bas, qui challenge. Hein. Du coup, j'ai fait une cure de GABA pendant un mois et ça m'a aidé en fait à re-réguler, avoir moins de déclic. Ça, moi, ça a été le truc qui m'a vraiment aidé, entre autres, hein, et accueillir qu'il faille du temps, surtout.
Super.
S'autoriser à faire des choses qu'on aime. Et le dernier truc, c'était, bah, quand je fatigue, quand ça va pas, j'accueille, j'accepte, je dors. Je fais rien. Ou des choses que je vais me promener dans la nature, faire un peu de sport, ça c'est hyper important aussi. Si tant est qu'on en ait un peu envie, hein, mais pas forcément aller faire un footing ou grimper aux arbres, mais juste aller marcher au bord de la mer, en forêt, se ressourcer, mais de se dire, bah là j'ai un coup de barre, j'ai plein de choses à faire, bah, c'est pas grave, j'arrête. De toute façon, j'ai pas l'énergie. Donc je me couche et ou je vais faire autre chose, et puis après, on remonte la batterie. Comme un téléphone qu'on recharge, en fait. On n'est ni plus ni moins qu'une batterie, hein, et on a besoin de se ressourcer. Moi, ça a été ça.
Ah, je suis complètement d'accord. Laura, tu veux rebondir avant de partir?
Oui, ouais, pareil. Et moi, je dirais que le plus déstabilisant en post-burnout, c'est faire connaissance avec ma nouvelle identité. Alors, je ne pense pas avoir changé complètement d'identité, mais il y a des choses que j'ai comprises forcément en prenant le temps. Des choses pour lesquelles j'étais faite, d'autres pas forcément. Des choses pour lesquelles j'avais de vraies affinités, d'autres plus forcément. Et en fait, tout ce que j'étais avant ce burn-out a soit disparu, soit a changé. Et du coup, bah aujourd'hui, il y a mon rapport aux autres, c'est-à-dire comment je me présente, qui je suis, mais il y a aussi, j'ai envie de tester ces activités qui me plaisaient tant avant et qui me rendaient tant heureuse avant. J'ai envie de les retester parce que je sais que j'ai toujours aimé ça. Bah, en fait, aujourd'hui, ça ne me procure plus aucun plaisir, c'est hyper déstabilisant. Donc, moi, je dirais que c'est ça le truc challengeant, c'est que je suis encore dans cette phase où je vais tenter de me relancer dans ce qui m'animait avant. Je vais tenter d'être à nouveau cette personne que j'étais avant, avec ses qualités et aussi ses failles. Et en fait, bah, là, je suis dans une phase d'acceptation de qui je suis devenue aujourd'hui, qui est tout aussi bien et génial, mais en fait, faut vraiment l'accepter, quoi.
Ouais. Complètement. Marie?
Oui, pour moi, la phase. Alors, moi, il faut savoir que les médicaments, déjà, juste pour remettre en contexte, parce que ça me semble important quand même, donc je les ai pris pendant un peu plus d'une année. Et c'est au bout de 3 mois de médicaments que j'ai décidé d'aller voir une psychologue. Donc aujourd'hui, je suis toujours suivie par une psychologue. Donc je suis en thérapie. C'est bizarre parce que j'ai toujours l'impression de dire un gros mot quand je dis ce truc-là. Et aujourd'hui, en fait, cette thérapie, elle fait partie intégrante de mon post-dépression. Parce que, en fait, déjà d'une, j'ai arrêté de me dire qu'il fallait un temps. Et de me dire, parce que pour moi, en fait, le fait de me dire, il me faut du temps, il me faut du temps, il me faut du temps, ça me mettait une pression folle, en fait, parce que je n'arrivais pas à concevoir, c'est quoi un temps? Arrête de me dire qu'il faut du temps. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Qui a la notion du temps? Personne. Alors, viens pas me casser les hein, avec ton temps, parce que je ne sais pas en fait. Donc, déjà, j'ai évincé cette notion de mon vocabulaire et je fais vraiment avec ce qui est présent. Et vraiment, la notion de post-dépression, moi, je dirais que je suis toujours dedans. Voilà. Et je pense qu'en fait, elle n'a peut-être pas de date de fin, parce qu'il y a toujours un après tout en fait. Donc, voilà. Comme il y a un post-tout, de toute façon, parce qu'après, ça fait partie intégrante de notre histoire et de notre expérience. Donc, forcément, ça sera toujours un après. Et il y a vraiment le post-dépression où, en gros, on a cette période un peu comme pouvait dire, comme peut parler Nadine, où on n'est pas encore maître totalement de nous-mêmes, notre corps n'a pas refait surface en totalité, on n'est pas en pleine possession de ce qui se passe normalement. Et moi, j'estime être encore dedans parce que je suis et j'ai reconnu et je reconnais être dans cette phase où je sens les pics là et ça, c'est pas du tout confortable pour moi. J'en ai beaucoup parlé à des amis, notamment à Prudence. Ce qui a été très difficile pour moi dans le post-burnout, c'est en fait de quand on a passé 3 ans en dépression, j'avais assimilé forcément, moi, que j'allais tout le temps mal. Donc, c'était ma nouvelle personnalité, d'aller tout le temps mal, en fait. Donc, après avoir commencé les médicaments, avoir commencé à être avec la psy, là, il faut déjà accepter que non, ça ne faisait pas partie de ma personnalité. C'est une expérience sûre dans ma vie et ça ne me définit pas. Donc déjà, ça, c'est un travail. Et en fait, après, le fait d'avoir été sous médicaments, bah, du coup, j'étais stable, mais en mode, c'est neutre. Et après avoir arrêté les médicaments, il a fallu que je reprenne possession de mon corps. Donc, tout ce qui va être en tant que femme, le cycle hormonal, moi, ça a été une horreur. Parce que du coup, je le vivais super mal. Parce que j'avais à l'époque, avant le médicament, j'allais tout le temps mal. Donc, je ne le voyais pas quand j'avais une saute tumeur due à mon cycle. Pff, de toute façon, j'allais tout le temps mal. Donc, ce n'était pas grave. Pendant le médicament, bah, j'étais plutôt stable. Donc, je ne le voyais pas non plus. Et quand j'ai arrêté le médicament, je savais hein, pourtant que ça allait me pendre au bout du nez. Je savais que c'était présent. Mais ça a été très dur de réapproprier mon corps et de me dire, en fait, bah, tous les mois, quand j'avais une période un peu difficile, de me dire, ah ça y est, je rechute. Ah ça y est, ah ça y est, c'est reparti là. C'est reparti. C'est reparti,
La
putain,
peur.
Marie, qu'est-ce que tu fais? La peur, j'étais transie et je le suis encore. Et je le suis encore, parce que, mais avec un recul différent, j'ai plus autant peur, je rationalise plus vite, enfin voilà, je prends le dessus sur moi. Et aussi parce que, bah, au détour d'une conversation d'ailleurs, notamment avec Prudence, j'ai accepté qu'avoir des syndromes prémenstruels très accentués, c'est pas normal quand on est à l'âge adulte. Enfin voilà, en tout cas, c'est pas normal. Et du coup, j'ai accepté de me dire, ok, bah, peut-être que je me complémente. Donc, mais c'est vraiment un chemin qui est hyper long. Donc, je ne sais pas le temps que ça va prendre. Et ça me... Alors qu'avant, tout ce que je voulais, c'était avoir une réponse immédiate dans mes prises de conscience au quotidien. Là, en fait, j'ai vraiment retiré cette notion de durée. Et ça aussi, ça m'a sauvé la vie. Je ne saurais pas dire, je n'ai pas le recul suffisant aujourd'hui pour dire qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à lâcher prise à ce point-là. Je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai travaillé sur des traumas d'enfance, sur voilà, où j'ai fait une thérapie, où j'ai continué, peu importe, de trouver aussi la bonne personne en tant que psychologue, parce que vous avez été, Nadine a dit que c'était pour elle, par exemple, le psychiatre, qui n'était pas forcément top. Moi, en fait, ça, c'était un de mes non négociables. Il fallait, quoi qu'il arrive, que de toute façon, ce soit quelqu'un avec qui soit, en fait, en capacité de contenir, c'est con, hein, mais mes questions. Parce que j'ai
C'est
trouvé une
important.
personne qui aujourd'hui ne répond pas à mes questions. C'est fou hein, de se dire, mais en fait, c'est le plus grand bien que ça me puisse faire. C'était du coup de ne pas m'auto-alimenter dans ma connerie, en fait.
Ouais,
Et
complètement.
même parfois, quand je lui pose des questions, elle me dit, mais je ne peux pas vous répondre. Et là, je lui fais, alors du coup, je lui fais, putain, il me fait chier. Et en fait, je la remercie après. Parce que c'est à moi de me dire, ouais, en fait, je vais me laisser le temps, c'est pas grave, je me laisse de l'espace, tout simplement. Et ça, vraiment, par exemple, le fait de me réhabituer à qui je suis, comme disait Laura, qui je suis devenue, qui j'ai été et quel impact ça a eu sur moi, sur ma vie et sur les changements qui, du coup, en découlent, ça aussi, c'est vraiment différent. Parce que moi, en tout cas, j'avais vraiment ce truc de, en fait, j'avais oublié que j'aimais rire. Que je rigolais tout le temps, que je faisais des blagues à mes enfants. Je suis la première à faire semblant de me couper un doigt et de mettre du ketchup sur mes doigts. Mais c'est le genre de truc que je faisais pas, que je faisais plus. Et en fait, pour mon cerveau, même si ça faisait partie de mes souvenirs, c'était pas moi. C'était une autre personne, en fait. Entre-temps, on avait remplacé Marie et elle n'était plus là, en fait. Donc ça, c'est encore vraiment en transition parce que toutes les actions du quotidien et même aujourd'hui, toutes les actions et les situations que j'ai pu vivre en étant en dépression, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un réel, et je le suis toujours dans un réel apprentissage de revivre les mêmes choses, mais en dehors de la dépression. Et moi, ça m'a vraiment fait ça en mode, par exemple, j'ai passé une soirée avec des amis pendant que j'étais en dépression. Il a fallu que je repasse une soirée avec ces mêmes amis en étant sous médicaments pour me dire, OK, j'ai fait une étape. En fait, j'avais vraiment l'impression d'être aux alcooliques anonymes, hein, d'avoir des badges et de me dire, j'ai revu cette personne. Voilà, et j'ai revu cette personne en étant en dépression, sous médicaments, en n'étant plus en médicaments, enfin, pour me sevrer en fait de la personne que j'ai été et de celle que je deviens. C'est vraiment la sensation que j'ai moi.
Il y a aussi un phénomène de deuil en fait.
Totalement,
C'est le même
complètement.
travail qu'un deuil. C'est hyper déstabilisant, je trouve. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment déstabilisant. Mais en fait, quand on comprend ça, justement, le temps, c'est plus une question, c'est plus un sujet. Parce que
C'est
quand
ça.
tu perds quelqu'un et que tu es en deuil, tu te dis pas, bon, allez, ça va me prendre 6 mois, après ça ira, ou ça va me prendre un an. Non, ça
Ça prendra du temps, très certainement toute une vie. Mais en fait, ce qui compte, c'est là, maintenant, ce que j'en fais et comment j'accepte ça et qu'est-ce que j'en fais de cool pour moi, quoi, et pour ma vie.
Ouais. Ouais, tout à fait, Laura. Et
D'accord.
merci de le dire parce que tout à l'heure, je disais que je n'étais pas forcément en capacité de dire qu'est-ce qui a fait que j'avais lâché prise. Et maintenant, en fait, rien que le fait de parler avec vous et de t'entendre dire ça, je pense que le décès de mon frère a fait pour beaucoup. Parce que j'ai vécu un vrai deuil et je le vis toujours. Et en fait, la vie m'a fait que, du coup, c'était un peu comme une perche tendue à dire, bah, toi aussi, tu vas vivre ton propre deuil derrière et tu seras mieux armé pour le faire, en fait. Et du coup, j'ai appris que le temps ne voulait vraiment rien dire. Parce que la souffrance, elle peut être la même hier comme dans 5 ans, en fait. Donc,
En fait, c'est pas tant, j'ai l'impression que c'est pas tant le fait que la souffrance ne soit pas là, mais c'est plus, j'ai l'impression, cette notion de tu vis avec. Comme tu disais, Marie, tout à l'heure, ça fait partie en fait de notre expérience une fois que c'est arrivé. Et la souffrance peut rester la même, mais avec le temps, on apprend à composer avec cette souffrance. Les premiers jours, ou avec cette douleur, ou avec cette expérience, les premiers jours, c'est vraiment genre, enfin, même les premiers mois, les premières années, ça nous met plus bactère. Et avec le temps, on apprend petit à petit, on remonte, on remonte. La souffrance peut rester la même, le deuil peut rester le même, mais par contre, on apprend à composer et ça commence à devenir voilà, une partie de notre vie en fait. Et pourtant, quand on y repense, ben, c'est toujours aussi vif.
Bah, je
Donc,
dirais que ça devienne partie de notre vie parce que on a accepté que c'était une expérience et que
ouais.
celle-ci ne définit pas qui
Qui
on
on est.
a envie d'être
Ouais.
en fait, sur l'instant présent. Parce que je pense que quand on vit une expérience et qu'on croit qu'elle nous définit toujours, on est encore dedans. Pour moi, c'est ma propre interprétation. Après, je ne suis pas médecin, mais voilà. Et que je pense que du moment où on a accepté de te dire que c'est une expérience et que vraiment on arrive à émotionnellement se détacher de cette expérience qu'on a vécue tout en s'en servant comme une leçon, comme voilà, une source d'inspiration aussi, et ben là, je pense qu'on a déjà fait un grand pas envers soi.
Complètement.
Ouais, je suis complètement d'accord. Pour parler de mon expérience de poste, et puis après, tranquillement, on arrivera sur les dernières choses que vous avez envie justement de dire à nos auditrices. Laura, si tu as besoin d'y aller, donc pour les auditeurs, Laura, elle va avoir besoin de partir, bah, tu n'hésites pas. Voilà. En tout cas, c'était un bonheur, tu le sais,
Ouais.
de t'avoir ici.
Je vous remercie. Comme ça, je partirai discrètement dans quelques minutes. Merci à toutes les trois. C'était hyper intéressant et j'espère que ça fera du bien en tout cas. Et voilà.
Oui, merci beaucoup d'avoir été là pour parler de ce sujet et merci pour ton expérience aussi. J'étais trop contente que tu sois là. Donc, pour moi, mon poste, il a été assez intéressant. On a beaucoup échangé avec Laura qui me parlait justement de ses expériences en tant que salariée. Il y a eu plein de moments où je me suis demandé si j'allais pareil pas redevenir salariée. J'étais là en mode oh waouh, mais pas tant pour la question par exemple, je sais pas, financière ou quoi, mais juste le côté ah oh ouais, tiens, et si j'allais revoir des gens en tant que salariée, ça pourrait être cool parce que moi j'adore justement être au contact des gens. Et Laura, elle me dit qu'elle voit plein de gens tout le temps et ça me donne envie. Et puis, en fait, avec le temps, il y a eu des moments où je me suis posé des questions comme ça. Est-ce que finalement, les conditions de travail en tant que salarié, ça serait pas mieux? Est-ce que finalement, enfin, donc moi, mon poste, il a été un peu parsemé encore de questions. Est-ce que oui ou non, je reste entrepreneur? Tout ce qui pouvait être, par exemple, humeur, etc. Ça, au fur et à mesure, ça allait. Par contre, de temps en temps, en effet, il y avait toujours des questions. Et moi, personnellement, c'est ça surtout qui est resté et ce que j'ai besoin de continuer, on va dire, à guérir. Bisous, Laura. Ce que j'ai besoin aussi de continuer, voilà, à guérir et aussi, je dirais, à faire des choix, à prendre des décisions. Pour moi, je pars du principe qu'à l'heure actuelle, je me suis vraiment justement détachée de cette expérience et qu'à l'heure actuelle, bon, bah voilà. Ça fait partie de ma vie. Mais par contre, je sens bien que quand on aborde ce sujet, ça réveille quelque chose en moi. Typiquement, là, on fait cette table ronde. Je sais que j'ai des maux de tête qui reviennent. Je sais que dès que je parle avec des amis, justement, de ce genre de sujet, je sais que je vais avoir des maux de tête. Donc, je sais qu'en fait, j'ai encore des déclencheurs qui sont là. Et de mon côté, je vais travailler peut-être, peu importe, avec des outils qui me conviennent, avec de l'EMDR, avec de l'EFT, avec des outils, en tout cas, qui me permettent de détacher l'expérience, l'émotion justement associée à un événement comme par exemple une discussion avec des amis de ce sujet-là. Mais en tout cas, petit à petit, et notamment là sur ces dernières semaines, je dirais que j'ai vraiment fait le choix de, à la fois de me dire, OK, en fait, non, je sais que l'entrepreneuriat, c'est ce dont, à l'heure actuelle, en tout cas, j'ai besoin, parce que j'aime trop ma liberté, j'aime trop pouvoir me dire, je peux manger quand je veux, je peux aller aux toilettes quand je veux, je peux aller faire mes courses quand je veux, je peux prendre des rendez-vous quand je veux et pas avoir besoin, en fait, de demander la permission ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Par contre, la façon dont je le fais, comme on le disait tout à l'heure, ça, je sais que moi, personnellement, à l'heure actuelle, putain, mais je dis tout le temps à l'heure actuelle, c'est quoi ce tic de langage que je ne disais jamais avant? Je ne sais pas, c'est pour cette table ronde. En tout cas, je sais que la façon dont je le fais, ça a besoin de changer pour davantage me reconnecter à mes valeurs, à ce que je veux et aussi à ma vision. Et également, on a aussi énormément parlé de l'environnement. Je sais que j'ai eu aussi beaucoup besoin justement de remettre des cadres et de me dire, OK, enfin, moi, je sais que plus je posais de questions, plus on me posait des questions aussi quand j'échangeais justement avec des amis ou avec des personnes de mon entourage, plus ça me gardait en fait dans justement cette notion de ah bah je vais me poser encore plus de questions, j'ai besoin de solutions, j'ai besoin qu'on trouve des solutions pour moi. Et donc j'ai eu besoin aussi de prendre justement de la distance et de remettre des cadres sur ok, ben en fait on va parler de choses, mais on va parler peut-être de choses, peu importe, plus légères, plus qui n'ont rien à voir avec ça en fait, juste pour se permettre de pouvoir. Complètement se changer l'esprit et pouvoir parler d'autres choses. Donc ça aussi, moi, je sais que ça m'a fait du bien. Et puis, bien sûr, comme vous l'avez toutes souligné, l'accueil de la nouvelle identité, parce que ben, il y a un avant et un après. Et donc, du coup, savoir aussi accueillir justement cette après, sans en permanence être dans le oui, mais avant, j'étais comme ça, oui, mais avant, j'étais comme ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai eu vraiment besoin, pareil, de faire un deuil. Parce qu'en fait, tant que je n'acceptais pas que je n'étais plus la personne que j'étais avant, ou qu'en tout cas j'allais faire les choses différemment, en fait, c'était pas possible pour moi d'avancer. Donc ça a été aussi quelque chose de très très important. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Et donc, bah, comme je le disais, on arrive tranquillement sur la fin de notre fantastique et merveilleuse table ronde. Et donc, dernière question que j'ai pour vous, les girls, est-ce que vous avez une dernière chose que vous avez envie de partager à nos auditrices aujourd'hui? Quelque chose, un conseil, quelque chose de votre expérience personnelle que vous avez envie justement de partager? Voilà, quelque chose qui vous semble important.
Moi, il y a un truc qui me semble important, parce que ça fait aussi partie de mon histoire personnelle. Mon frère, donc je disais tout à l'heure, qui est décédé, était schizophrène. Et j'ai du coup, je pense, on est dans une société maintenant où on parle beaucoup plus de santé mentale, de maladie mentale, mais que ce mot maladie mentale a fait peur pendant tellement, tellement, tellement d'années. Parce que par méconnaissance, parce que, bah, encore une fois, par le manque d'information, l'information aussi qui est mal véhiculée, a fait peur. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la prévention, il faut vraiment avoir des personnes qui vont être sur le terrain et même en faire de la prévention, en fait, à titre de prévention sexuelle qu'on fait dans les écoles,
Ouais.
en fait.
Exactement.
Parce que aujourd'hui, je crois vraiment que c'est un mot qui a été maltraité et que en fait, on est malade. Moi, j'ai eu du mal quand mon père m'a dit, mais en fait, Marie, t'es malade. Là, j'ai fait toute mon enfance m'est remontée à la gueule. Je me suis dit, mais non, non, je ne suis pas malade, je vais bien, mon cerveau va bien, tout va bien. Enfin, c'était très violent. Bon, ça, c'est mon expérience personnelle. Mais je pense que dans la société en général et de façon culturelle en France, même s'il y a beaucoup plus de prévention maintenant, c'est un vilain mot. Déjà de
Oui.
base. De pas aller bien, c'est un vilain mot. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prévention aujourd'hui à faire. Et je le vois même moi avec mes enfants. Aujourd'hui, je trouve que c'est hyper important de faire de la prévention. La dernière fois, j'ai vu un livre d'une dame qui avait écrit justement pour faire comprendre à leurs enfants qu'elle était bipolaire. Elle avait écrit un livre. Et moi, je pense en fait que le meilleur moyen pour justement amener plus de conscience sur ces maladies, qu'il y ait plus de gens qui s'autorisent à dire qu'ils sont malades et qui vont vouloir faire quelques démarches, que ce soit un médecin, un psychologue, peu importe en fait, c'est d'éduquer. C'est d'éduquer, mais d'éduquer sur de la formation qui est juste d'éduquer comme on le fait, en partageant nos expériences et on n'est pas tout sachant, on partage déjà juste notre expérience. Mais pour moi, c'est vraiment aussi de lever le voile sur le fait que c'est pas un gros mot, la maladie mentale. Et dans tous les cas, depuis des décennies, ça a toujours quelque chose qui a fait peur parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on connaît que trop peu parce que le cerveau, ça reste le plus grand mystère qu'on a en tant qu'être humain. Et en fait, tout ce qui va toucher à ça, même s'il y a des progrès, ça fait un peu peur en fait. Donc, voilà. Je pense que c'est vraiment d'avancer en se disant qu'on n'aura peut-être pas toutes les réponses à nos questions de toute façon. Mais le but, en fait, c'est déjà qu'on aille mieux et qu'on soit à même de parcourir notre vie comme on a envie de le faire, tout simplement, avec les obstacles et tous les challenges que ça représente d'être un être humain, en fait, tout simplement. Mais de ne pas avoir peur de considérer ça comme un gros mot. Et en fait, de le dire. Je l'ai dit encore tout à l'heure, mais même moi, dire le mot être en thérapie, c'est encore difficile. J'ai l'impression de dire un truc. Genre, ça y est, on a collé une grosse étiquette sur la tête de Marie, tout le monde sait qu'elle fait une thérapie. Et là encore, en plus, c'est marrant parce qu'on est sur un podcast, je ne sais pas du tout qui va écouter. Ça se trouve, j'aurai des personnes que je connais, des personnes que je ne connais pas, et voilà. Mais en fait, ce n'est pas grave parce que pour moi, honnêtement, il ne faut pas attendre d'aller mal pour aller voir un psychologue. C'est comme pour tout, en fait. On doit être dans la prévention. Tout, pour moi, repose sur la prévention et aujourd'hui, ça change. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont attentives à ça, qui font des efforts. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais ça restera ça en fait. Et c'est aussi le fait que nous, quand on l'a vécu, on s'autorise à en parler et mettre des mots qui sont juste des mots sur ce qu'on a vécu pour que les autres en face de nous se disent, ah bah oui, bon, d'accord, elle a fait une dépression, ok, bon, voilà. Parce que je pense aussi qu'il y a eu beaucoup le fait de cacher pendant, parce que la dépression, c'est pas nouveau, hein, le burn-out, c'est pas nouveau, hein. C'est juste qu'en fait, c'était tellement mal vu qu'il faut pas le dire. Nadine l'a dit tout à l'heure, rien que le fait qu'elle apprenne que son employeur sache qu'elle n'allait pas bien, c'était pour elle inconcevable. Et on est vraiment encore là-dedans. Donc c'est pour ça que à la hauteur de ce que vous pouvez, à la hauteur de ce que vous acceptez dire, faire, mettez des mots sur ce que vous vivez parce que c'est la meilleure libération qu'on puisse faire à l'échelle de la conscience collective, en fait.
Complètement. Bon, Marie, je te remercie beaucoup pour ce que tu dis là, parce que c'est vrai, on est beaucoup trop encore en France sur du curatif et pas assez sur du préventif, mais c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines médicaux d'ailleurs. Et on a beaucoup à apprendre là-dessus. Mais je crois que là, on est vraiment au début d'une nouvelle ère par rapport à ça. Parce que bon, le Covid, s'il nous a fait du mal, il a aussi ouvert les consciences par rapport à ça. Beaucoup de gens qui, pendant cette période d'arrêt, là, d'un seul coup, se disent, wow, mais en fait, je fais quoi de ma vie? C'est où ma place? Ça peut être mon identité, ça peut être tout ça. Se posent des questions et du coup, à se poser des questions, peuvent se sentir mal, réaliser qu'ils sont pas à leur place. Et qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux être accompagnée? Parce que seule, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai envie de dire, un peu le message que je voudrais passer aussi, c'est que, OK, il faut faire du préventif et il faut aussi accueillir l'idée que notre cerveau est un allié et non pas un ennemi. Parce qu'on se fait du mal à soi-même, on culpabilise, pourquoi je suis comme ça, machin et tout, et j'y arriverai jamais. Non, il faut savoir que notre cerveau est là pour nous maintenir en santé, même s'il nous joue des mauvais tours parfois. En fait, il cherche juste à nous protéger. Notre cerveau, c'est un ordinateur, c'est un programme. Ce programme-là, il s'est fait au fur et à mesure de notre, bah, de qui on est à la naissance, après des injonctions de la société, de notre éducation avec nos parents ou notre environnement. Et puis des fois, bah, là, avec le HD, tu peux en parler plus dense. Il y a des fois, on dérive complètement de qui on est intrinsèquement. C'est ça qui fait qu'on va être mal. Mais quand on revient et qu'on travaille sur soi et qu'on accepte que notre cerveau peut être là pour nous aider, on peut reprogrammer les choses. Et je voudrais vraiment passer ce message parce que c'est possible. On a tendance à croire que comme on est comme ça, on va rester comme ça, qu'on ne peut pas changer. Si, on peut réellement changer les chances. En étant bien accompagné avec les bonnes personnes, on peut vraiment changer nos programmes. Ça n'enlèvera jamais nos blessures, ça n'enlèvera jamais notre histoire de vie et nos traumatismes et les belles choses aussi qu'on a vécues. Ça fait partie de nous. Mais par contre, on peut choisir, avec l'aide de notre cerveau, de changer nos lunettes et se dire, moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir la vie autrement, d'assumer qui je suis, et au lieu de voir l'arbre toujours du côté de son ombre, de le voir du côté du soleil. Mais c'est un choix, c'est une décision. Et à partir du moment où on le décide, on peut reprogrammer. Et ça, c'est vraiment énorme. J'en ai fait l'expérience ce week-end. Il se trouve que j'étais en formation, justement là-dessus. Et j'ai été bluffée de voir des femmes, on était 15 femmes, de voir des femmes qui arrivaient avec des traumatismes lourds, hein, voire des maladies dans certains cas, et qui, juste en appliquant ce processus pour reprogrammer des petites choses dans notre tête, changer notre vision, mais ça peut tout changer derrière, en fait, vraiment. Et ça, j'ai envie d'y croire, et j'ai de plus en plus, moi, aujourd'hui, envie de contribuer à ça. Et du coup, se pardonner, ne pas s'en vouloir, vraiment se pardonner, accueillir cette part de nous qui, des fois, bah, nous malmène. Elle fait partie de nous, mais il y a aussi toute une part qui peut nous faire faire grandes choses. Et pardonner nos phases d'ombre et puis accueillir notre lumière pour aller vers un mieux, quoi. Et c'est une décision de soi à soi, vraiment. On peut décider d'aller mieux. Après, il y a un chemin, et le chemin, c'est toute notre vie. Et il faut pas croire que ça va s'arrêter, comme a dit Marie, le temps. Ouais, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de 2 ans pour donner une image, parce qu'il y a des choses mécaniques, mais au-delà de ça, c'est toute notre vie qu'on travaille sur nous. Donc accepter de travailler sur soi et de toujours aller dans cette quête de, ben voilà, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et s'autoriser à vivre vraiment ce qu'on souhaite et non pas subir la vie, si tant est qu'on décide de le faire en tout cas. N'empêche pas les bobos, il y en aura toujours des cailloux sur le chemin, tout le temps, mais il y aura toujours aussi du soleil. Et ça, c'est important.
Comme là, ton visage, Nadine, il est illuminé par le soleil et la lumière dont tu parles. Ah.
Lâchez-moi. Mais si, moi, je
Super,
rayonne,
ouais.
j'ai accueilli tout ça, j'ai fait ce chemin et il est loin d'être terminé. J'ai encore plein de choses à guérir, à apprendre, à grandir. Et aujourd'hui, je suis face à un challenge qui est que, ouais, je suis entrepreneuse et j'ai des peurs en moi parce que mon activité, bah, pour X raisons actuellement, ne me fait pas facilement vivre, on va dire financièrement parlant. Et je m'interroge sur l'idée, peut-être pendant un certain temps, de reprendre un emploi salarié. Et j'en ai extrêmement peur. Extrêmement peur parce que c'est dans cet emploi salarié que j'ai basculé et que j'ai du mal à, comme toi, Prudence, à me dire, je vais retourner, perdre ma liberté de mes horaires, mes actions, de mes décisions et devoir subir un patron. Pour moi, c'est compliqué aujourd'hui. Et pourtant, il y a une phase, une part de moi qui se dit, mais j'ai vécu ça et mon expérience aujourd'hui fait que j'ai envie d'aider les gens. Et c'est ce que je fais déjà. J'accompagne des femmes entrepreneuses, mais je me dis, et pourquoi pas peut-être aller accompagner toutes ces personnes salariées qui ont besoin de grandir et de prendre soin d'elles dans ce contexte un petit peu compliqué.
Ouais,
Je sais pas où mon chemin,
à
mais il
voir.
faut s'autoriser à le vivre. Ouais.
Complètement, et à se laisser guider. J'adore. Et ben, moi, pour terminer, le dernier mot que j'aurais, c'est vraiment demander de l'aide et surtout aussi demander de l'aide à des professionnels parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les personnes qui sont autour de nous, elles peuvent nous soutenir de la meilleure manière possible, mais elles vivent ça avec nous. Parfois, elles ont elles-mêmes aussi leur propre challenge, leur propre vie, leurs propres difficultés. C'est pas non plus, à moins que vous ayez un ami médecin dans votre entourage ou un ami psychologue ou un ami thérapeute, peu importe. Mais en soi, c'est pas non plus, je dirais, à eux de régler justement vos problématiques. Et donc, demandez de l'aide à des professionnels, allez consulter, allez voir quelqu'un, même si vous avez des doutes, et vraiment faites-vous accompagner par des personnes qui pourront, j'allais dire vous soutenir, mais vos amis vous soutiennent aussi, hein, votre famille aussi, en tout cas, vous soutient, mais qui pourront vraiment vous aider, en fait, sur ce cheminement, parce que ils ont les clés, ils ont les connaissances, ils ont l'expérience. Choisissez aussi bien la personne, bien sûr, à qui vous demandez de l'aide, mais en tout cas, demandez de l'aide à un professionnel ou à une professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous dire pour terminer cette fantastique table ronde. Donc voilà. Bon, les gars, je suis trop contente que vous ayez été là avec moi, avec nous, du coup, pour pouvoir aborder ce sujet. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et qui vous êtes autour de cette table ronde. Vraiment,
Avec
merci du fond
plaisir.
du cœur.
Merci à toi, Prudence, de parler de ces sujets. parce que il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire
Ouais.
et c'est chouette. C'est chouette, même si ça remue, hein, honnêtement, de reparler de tout
Ouais,
ça.
moi aussi.
Mais c'est super de se dire si notre expérience, eh ben, elle peut contribuer à ce que ça fasse des déclics chez certaines personnes pour se faire aider, pour grandir et pour s'en sortir, eh ben, voilà, on
Ouais.
aura au moins contribué à ça et ça, c'est, ça a pas de prix.
Exactement, ça je suis complètement d'accord. Donc merci beaucoup. Comme d'habitude, vous le savez, je vous mettrai tous les liens de nos invités du jour en description, n'est-ce pas, pour que vous puissiez justement les retrouver. Et puis ben écoutez, on vous fait plein de gros bisous, à très vite pour un prochain podcast et surtout prenez soin de vous. Bisous
Bye bye.
bisous.
Bye bye.